Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue pour le 59e Weekly News, votre condensé d'actu comics et dérivés. Nous sommes le lundi 9 septembre et avec moi cette fois-ci pour vous parler de toute cette actu, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Et Sam qui revient en deuxième semaine car il a été sauvé par le public.
Ah bon ? Ah bah c'est une première pour moi. En général, on vote la décapitation dès les
plutôt
deux premières
ouais.
minutes.
On ne dira pas que je viens de m'y reprendre à trois fois pour faire cette vanne, hein.
Non.
Mais c'était bien drôle, par contre, on a bien rigolé.
Cette semaine, nous allons parler, bien sûr, de cinéma, de jeux vidéo, avec des petites infos. Pas grand-chose, hein, cette semaine, c'est calme. Côté actu ciné, pour une fois, ça nous change. Nous parlerons dans le gros sujet de la news qui est tombée en début d'après-midi. Le gros changement sur Marvel, la deuxième vague de titres Marvel qui s'appellera cette fois-ci All New Marvel Now.
Ouais,
ils ont été chercher
voilà.
Loin. Enfin, dans les brèves, nous aurons un petit peu d'actu VF, mais aussi pas mal d'actualités VO. Ça y est, ça se réveille. Enfin, les vacances sont passées et ils commencent à se rebouger. Il était temps. Pendant ce temps-là, nous fallait qu'on assure des émissions. Pas sympa, les Américains. Et enfin, nous terminerons avec trois mails que nous avons reçus cette semaine. Des mails qui nous font toujours plaisir. On vous les lira en fin d'émission. Je suis Steve et vous écoutez le Weekly News. Et comme chaque semaine, nous allons commencer par le What's Up, Bruno.
Je vais vous parler un petit peu de cinéma. J'ai vu deux films là ce week-end. Le premier, qui est un film qui est sorti en 2012 et que j'avais manqué, qui s'appelle Le Chien du Tibet, qui est un très beau manga d'animation, une animation vraiment très sympa sur les chiens qui vivent au Tibet. Et c'est très beau.
Le titre n'est pas trompeur.
Non, voilà, c'est ça. Et non,
c'est pas du titre à la française qui veut rien dire.
C'est très émouvant, j'ai eu ma petite larme presque. Et sinon, j'ai aussi vu Red 2. J'ai même vu Red 1 aussi dans la semaine. Donc j'ai vu le 1 et le 2 d'affilée. Et c'était pas si mal. Le 1 était pas terrible. En fait, je l'avais trouvé sympathique sans plus. Mais du coup, le 2, comme il n'y avait plus besoin de présenter les personnages, on allait tout de suite dans l'action. Et c'était quand même assez palpitant, avec beaucoup d'humour et un John Malkovich très en forme. Donc non, j'ai passé un bon moment à Red 2.
Ouais, lisez plutôt le comic book de Ryan Ennis.
Ah,
ça vaut le coup.
D'accord.
Faudrait que je le fasse, ouais. J'ai pas encore lu le comics.
Finalement, tu confirmes que, contrairement à ce que tout le monde dit, Red n'est pas dead.
Ouais, non, Red n'est voilà. Pas complètement mort encore. Red is dead. Mais non, Red 2, c'était pas mal, et il y avait vraiment de bonnes scènes d'action, en plus, par rapport au premier film qui était un petit peu mou, on va dire. Là, vraiment, c'était assez impressionnant.
Très bien. Sam, ton WhatsApp.
Bon, alors moi ça a été un peu calme, ça a été une relecture en fait de Wolverine and the X-Men. Et qu'est-ce que c'était bien cette série.
Ça allait encore. C'était
J'aime bien comment il en parle comme une série défunte.
Vu que Bendis est maintenant sur la franchise.
Oui, non.
Voilà. Mais
y a pas
la bonne nouvelle,
bien,
c'est que comme Jason Aaron va avoir un second titre, peut-être que l'influence bendisienne sera contrée.
Ben, c'est tout ce que je souhaite.
Ouais.
Enfin bon, on va pas revenir sur Battle of the Atom, hein.
Ah non, c'est très bien ça.
C'est pas si mal, hein. Vous aviez été bien bien négatif, hein, avec
non, on
Flo,
a été réaliste et juste.
Pas du tout d'accord.
Réaliste et juste. Je vais passer à mon WhatsApp. Déjà une semaine chargée puisque j'ai retrouvé du taf, donc j'ai un changement de rythme assez drastique. Étant donné que je me lève maintenant à l'heure où j'avais tendance à me coucher, donc forcément.
Tout d'un coup, ça fait un choc.
Ouais,
c'est dur.
J'imagine.
Mais bon, voilà, donc nouveau taf. Et surtout, juste avant cette émission, j'ai regardé Star Trek Into Darkness.
Ah.
Enfin.
T'as kiffé.
Comment dire. C'est pas un mauvais film, loin de là. C'est un bon film de science-fiction. C'est un très mauvais film Star Trek. Voilà.
Oh là là, Steve.
T'avais pas déjà dit ça du premier?
Ben oui. Mais on est dans la même chose. En fait, si vous voulez, je vais reprendre un exemple qui sera peut-être plus parlant pour tout le monde, puisque tout le monde n'est pas fan de Star Trek. À mon grand dame, bien évidemment. Mais tout le monde est grand fan de Star Wars. Ces Star Trek de J.J. Abrams sont l'équivalent de Star Wars épisode 1, 2 et 3. pour...
Oh non, l'insulte.
Non mais si, si,
quoi.
Si, sérieusement.
Steve,
sérieusement.
Tu sors. Steve, tu sors.
Vous ne connaissez pas la franchise Star Trek, c'est pour ça que vous ne pensez pas ça, mais les gens qui ont découvert Star Wars avec les épisodes 1, 2, 3 ont adoré, parce que c'était... voilà,
non.
Ils ont découvert ça comme ça.
Non, je connais des gens qui ont découvert ça, épisode 1, 2, 3, ils confirment aussi que c'est de la merde. Hein.
Parce qu'ils ont vu depuis le 4, 5, 6. Mais quand tu vois que le 1, 2, 3, bah tu trouves ça bien, peut-être.
De quoi?
Si tu ne connais pas, si tu ne connais pas l'univers Star Wars.
Ça, ça a
écoute,
rien
moi,
à voir,
j'ai
Star
vu
Trek,
récemment les premiers Star Trek. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Hein. Franchement, ça a vieilli et c'est pas franchement palpitant.
Il y a tellement de choses qui me gênent dans ce film. Déjà, des incohérences scénaristiques monstrueuses. Je ne vais pas revenir dessus.
Bien sûr, le premier
énorme.
Star Trek 2 n'avait pas d'incohérence. Ah ben, on s'est trompé de planète. Ah ben, c'est dommage, ça.
Ça m'a
sorti du film dès le début. Les mecs qui débarquent sur une planète, ah ben merde, on s'est trompé parce qu'en fait la planète où on voulait aller, elle a explosé depuis. Tu te fous de ma gueule, putain. J'ai vraiment l'impression d'être un crétin là. Donc...
Bah, après,
franchement, quand tu vois les
incohérences, quand j'étais au cinéma, j'ai pas vu énormément d'incohérences dans Star
Trek.
Ouais,
moi non plus.
Hein.
Tellement
tu les as trouvé
dans les personnages. Mais rien que la scène d'intro ne tient pas debout. Comment un mec comme Spock, qui est tout le genre en train de citer la Prime Directive, peut se permettre d'agir et de sauver une planète alors qu'il va modifier le cours de son évolution.
C'est plus le même Spock.
Et surtout, en fait, là, il est commandeur, donc il est obligé d'obéir aux ordres.
Mais justement, il obéit pas aux ordres. C'est de son propre chef qu'il sauve le volcan.
On est dans une nouvelle timeline.
Et surtout que là, dans le procédé qu'il utilise, il devait le faire de manière secrète. Donc
certes, mais il interagit quand même avec le cours de l'évolution normale de la planète, alors qu'il est en train de dire à Kirk de l'autre côté, non, n'interviens pas, tu vas changer le cours de l'évolution de la planète.
Parce que s'il intervient, il sera découvert. Ce qui
ça
est primordial pour Kirk, c'est
non,
qu'on
non,
ne les
non,
voit
non,
pas.
Non, c'est il trahit la Prime Directive d'entrée de jeu. Donc et ça,
non,
c'est
il
que
la contourne,
la
il essaye de la tordre, il essaye
minutes.
De la tordre dans les premières minutes, et il essaye de ne pas la violer en ne se faisant pas découvrir par la race primitive en question.
Oui.
Il y a
déjà
tellement de choses. Il y a tellement de choses.
Ça, c'est vraiment l'influence de Kirk.
Spock est différent. Spock est différent.
Voilà, c'est vraiment l'influence de Kirk qui est de tordre la règle sans vraiment la briser.
Je vous dis, ce sont les épisodes 1, 2, 3 de Star Wars appliqués à Star Trek.
Bon.
C'est tout. Tu reprends ce qui a marché dans une franchise et tu le tords pour en faire un nouveau truc.
Je ne suis pas du tout d'accord.
Star Trek n'avait pas besoin d'un reboot à ce point. C'est tout. Alors, comme je dis, par contre, ça reste un très bon film de science-fiction. Enfin, visuellement, c'est très beau. À part ces putains de lens flare, faut vraiment qu'il arrête, sérieusement.
Alors, moi, j'ai arrêté d'y faire attention. J'ai arrêté d'y faire attention complètement. Hein.
Ah non, non, mais il y en a tellement dans le film, c'est insupportable. Il y en a tout le temps.
Je te dis, même moi qui ai les yeux assez sensibles, là, pas fait du tout attention.
Aujourd'hui, c'est devenu une marque de réalisateur, alors qu'en réalité, juste repenser à ce que c'est qu'un lens flare, c'est un défaut. D'un mec qui ne s'est pas filmé. C'est juste une erreur du directeur de la photographie ou du cadreur qui a laissé passer un reflet, quoi. Il y a 20 ans, c'était impardonnable une erreur comme ça. Et aujourd'hui, c'est un effet de style monstrueux. Sérieusement, quoi.
En tout cas, t'as pas apprécié tout ce qui était un peu justement hommage à Star Trek 2 et qui justement jouait sur les fans.
Bah non.
Qui,
non,
bah
parce
pourtant,
que.
Pourtant, c'est tellement bien amené, je trouve.
Les Klingons, sérieusement. Les Klingons! Oh. Sérieusement, mais pourquoi changer quelque chose qui marchait?
Mais il n'y a rien changé.
Le changer en quelque chose de bien aussi.
Non, non, mais je veux dire, avec les effets visuels que l'on a, pourquoi changer les vaisseaux? Pourquoi changer les gueules des Klingons? On pouvait les laisser tels quels, ça fonctionnait.
Moi, j'avais
l'impression
qu'ils
n'étaient
pas changés. Hein.
Ils ont gardé les vaisseaux de proie comme avant.
Ah non, 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 c'est pas du tout le même design. Pas du tout le même design.
Oh là là, l'intégriste de Star Trek.
Bah, en même temps, si, c'est normal que ce ne soit pas les mêmes, puisque normalement, même si c'est une nouvelle continuité, c'est censé être dans le passé.
Si tu reprends le design des oiseaux de proie Klingon n'ont pas changé.
Non, mais je veux dire, ça, ce dont tu parles, c'est le design au moment de Star Trek, au moment où Kirk et Spock ont une quarantaine d'années. Là, Spock est... Donc, voilà, ils ont une quarantaine d'années, 35-40. Là, ils ont 25 ans, quoi.
Je rappelle qu'à la fin du film, ils partent pour leur mission de 5 ans.
Quelle société guerrière se garde les mêmes vaisseaux pendant 15 ans?
Et puis non. En plus, il faut prendre en compte que la Terre des Vulcains a explosé, et donc du coup, il y a plein de choses qui ont dû changer en conséquence. Genre
mais
des
non, mais ça n'a pas
rien à voir.
Non, ça n'a pas influé sur le développement Klingon premièrement.
Ah
c'est
si,
impossible.
c'est comme quand on dit que le battement d'aile d'un papillon peut influencer
mais
de
non,
l'autre côté de la Terre.
Mais Bruno,
un événement,
ça ne peut pas avoir influencé le développement Klingon en même pas un an. De plus, comme je dis, à la fin du film, ils partent pour leur mission de 5 ans, la première mission de 5 ans, ce que l'on voit dans la série Star Trek, et les Klingons, on les voit dès le départ. Et ils ont déjà le même design d'oiseaux de proie qu'ils ont toujours eu. Donc non, c'est pas logique. Il y a rien de logique, et il y a plein de choses comme ça qui ne vont pas. On fait des références à la continuité tout en s'en séparant le plus possible. C'est
oui,
crétin.
Mais c'est des clins d'œil aussi.
C'est crétin.
Enfin bon, on va arrêter, on va croire qu'on est sur Star Trek City.
Heureusement, comme je dis, le film est un très bon film visuellement. On passe un très bon moment. Mais pour moi, ce n'est pas un Star Trek. Voilà, tout simplement. C'est le Star Trek nouveau, le Star Trek pour Jones.
C'est le New 52. New
c'est comme les New 52. Ce n'est pas le DC Universe.
Moi, bah, le New 52, c'est quand même pas terrible.
Et voilà.
Bon, allez.
Mais c'est parce que tu connaissais bien l'univers DC d'avant. C'est pour ça aussi que tu as cette réflexion-là. C'est difficile d'arriver à se faire comprendre des fois, je vous jure. Comment vous pouvez abonder dans un sens et pas dans l'autre. Moi, ça. Bon, enfin, bref. On va passer sur le Screen News, puisqu'on était sur le thème du cinéma quand même. On va commencer avec un autre univers de science-fiction, puisque c'est l'univers de Battlestar Galactica qui va se rappeler à nous. Avec un film Marvel, puisqu'on parle de Katie Sackhoff, dans un film Marvel, et peut-être même pour Captain Marvel.
Donc là, je dis oui. Et un gros oui. Et d'ailleurs, je quand tu oui étais en off, c'était un putain de gros oui.
Ah, ça tombe bien, elle a déjà la coiffure pourrie. Oh, ouais. Le bâche oh.
Non, là, sa coiffure, elle est bien mieux. Hein, parce que Captain Marvel a quand même une coiffure de camionneuse lesbienne de 50 ans. Quand même
excuse-moi, mais Katie Sackhoff, dans Battlestar Galactica, a quand même une coiffure de lesbienne camionneuse de 50 ans aussi.
Non, j'avais pas trouvé. Elle avait une coiffure de pilote de chasse, normale.
En tout cas, c'est une actrice que j'aime beaucoup, moi. Dans Battlestar, elle était excellente en Starbuck. Et... Elle avait un rôle déjà militaire, donc jouer un rôle comme ça de Captain Marvel, pourquoi pas.
Ah, c'est un rôle qui s'en rapproche énormément.
Ouais. Donc,
si elle arrive à lui conférer sa badasserie, ça sera parfait.
Ouais. Non, ce serait vraiment un super bon choix.
Reste à voir dans quel film elle jouerait un rôle.
Bah, Avengers 3, allez.
Peut-être avant. Sait-on jamais, on a encore pas mal de films de la phase 3 qui ne sont pas annoncés, hein, rappelons-le.
Mais ça serait quand même une grosse rampe de lancement pour le personnage.
C'est sûr.
En plus, si c'était encore écrit par Joss Whedon.
Et pourquoi pas une petite apparition dans S.H.I.E.L.D.
Ouais.
Pourquoi pas
le personnage de Carol Danvers.
Des séries télé, ouais.
Juste, tu vois, un petit caméo et puis on la revoit dans un film ensuite. Mm-hmm. On sait jamais, on est à l'abri de rien avec Marvel et ils auraient tout intérêt à jouer sur les deux tableaux puisqu'ils ont les deux franchises.
Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est plus une actrice de série télé, mine de rien, donc voilà.
Ouais, enfin ça veut rien dire. Hein. Tu sais, il y a pas mal d'acteurs qui s'en sortent au cinéma alors qu'ils ont commencé vraiment dans la série télé. Hein.
Mm-hmm. Ouais, mais elle est peut-être plus bankable côté série que côté film, quoi. Pour,
justement, elle coûtera moins cher.
Ouais.
Et c'est tout avantageux pour eux au cinéma. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit autant de cette star de série au cinéma, parce que ça coûte moins cher que des gros acteurs. Mmh. Alors, et en plus, ils sont vraiment déjà bien connus du public, bien aimés, mais ils prennent moins cher pour un film.
Ouais, bon, on attend de voir si ça va se confirmer, ça reste pour l'instant des pourparlers, mais...
Ah là,
ça serait très bien.
Bah, ce serait un choix vachement logique, en fait. Mmh. Voilà. Passons à quelque chose, par contre, qui n'est pas logique, qui ne devrait même pas exister.
Et là, tout le monde était d'accord, hein. Tous les trois, on était d'accord.
Là, il y a une unanimité sur la merderie que c'est que ce
sur
machin.
Sur la bouse.
Et oui, le premier trailer officiel de Robocop est sorti.
Robocop.
Et là, c'est vraiment du Robocop tout public, hein, gentil et qui fait pas de vagues.
Alors, bah déjà, tout change, hein, puisque Murphy, on nous fait le coup du mec qui se fait flinguer, et en fait, non, c'était pas Murphy qui se fait flinguer. Murphy, il devient Robocop suite à l'explosion de sa voiture.
Bah oui.
Déjà, ça c'est ridicule.
Ça évite des explosions de cervelle, des démembrements, ce genre de truc.
Bah ça évite la scène culte du premier film, quoi. Au moins, ils vont pas essayer de la réelle.
Mais
de
si, il a
qui nous a tous traumatisés, quoi. Faut quand même le dire. Hein.
Mais regarde, ils la font en plus. Tu la vois dans le trailer. Mais c'est genre son coéquipier qui se fait descendre.
Ouais.
Voilà ce que je parle. Pourquoi essayer de faire des hommages comme ça? Ça sert à rien. Ça met juste en colère le fan.
C'est pareil quand on voit le costume gris et qu'après il dit « Ah, je préférais que ce soit un peu plus noir et tout. » C'est tout pourri.
Ah oui, alors parlons de quand c'est noir. Hein, avec cette visière qui descend, donc on peut voir son visage tout le temps, et cette espèce de bande rouge à la K2000 qui passe sur sa visière.
Mais ce qui est pire, c'est qu'en fait, il lui reste des morceaux de son corps en parfait état. On a sa main, par exemple, qui est en parfait état. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel?
Et
Parce que,
parlons
non, mais...
ce qui
Robocop
était
chef
vraiment
des...
bien dans le premier Robocop, c'était justement cette espèce de côté viscéral du fait qu'il n'y eut, grosso modo, il lui restait un morceau de son visage, son cerveau, et c'était à peu près tout. Le
Et
reste était passé à la déchetterie.
oui. Mais
Là, il lui reste quasiment tout son corps.
il y a plein de choses qui vont pas non plus. C'est véritablement une part de notre enfance qui dégage encore une fois avec ça. On a donc un Robocop qui court et qui saute sans problème. Ah oui, on est à l'ère des cyborgs qui peuvent se déplacer comme les humains et ce serait peut-être pas crédible dans la tête des producteurs d'avoir un mec un petit peu dur qui a du mal à marcher. Bah non, ça fonctionnait très bien. Et ça fonctionnerait encore très bien. Ah.
Après, bon, ça reste une bande-annonce,
En
mais...
plus, non mais sa femme qui est au courant de ce qu'il est, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Et puis...
Ou le fait qu'il ait conservé son humanité alors que justement, on effaçait tout dans le premier. C'est ça qui rendait encore le plus le truc encore plus horrible, puisqu'il perdait quasiment toute son identité, ses souvenirs, tout quoi. Donc c'est
Et puis Robocop quand même qui mène une armée de ED-209. Ça vous a pas énervé de voir ça?
Oula, oui.
Ça, après, à la rigueur, je m'en fous parce que faut voir le scénar qu'ils vont faire parce que ça va pas être un remake plan pour plan du premier film.
Mais quand tu
Mais
vois déjà la bande-annonce, tu comprends le scénar et tu te dis, mon Dieu, j'ai affaire à une merde.
c'est juste un film qui a l'air de complètement manquer d'ambition et qui a pas l'air
c'est
très bien
vraiment pour du
réalisé
tout
d'autant
public.
plus.
Non, mais c'est vraiment un film fait pour tout le public. C'est-à-dire qu'on peut emmener son gamin de 13 ans à aller voir ce film.
C'est exactement comme le remake de Total Recall ou les trucs
C'est
pourris
comme
qu'ils ont fait
tous
récemment.
les remakes reboot, de toute façon, en général, ça n'arrive pas à la cheville de l'original. Je dis bien en général, parce que de temps en temps, on peut avoir une bonne surprise. Mais bon,
Mais
c'est
comme les Star
rare.
Trek.
Mais justement, on va parler d'un autre reboot, Terminator 5, qui devrait être un reboot de la franchise. Et on parle à la direction, donc à la réalisation, de Alan Taylor, qui a dirigé beaucoup d'épisodes de Game of Thrones et qui
Ouais.
dirige Thor
Thor 2.
numéro 2.
Voilà. Donc on sait pas trop ce qu'il va donner encore sur Thor 2, mais ça a l'air d'avoir donné de la confiance au producteur, puisqu'il lui propose Terminator 5 avec probablement Arnold Schwarzenegger, qui reviendrait pour un rôle.
Ouais,
J'ai
enfin.
75 ans, mais je peux encore tirer.
Il sera sûrement pas le rôle principal, hein.
Non, là, il est un peu vieux, là, quand
Bah, il y a de fortes chances que cette fois-ci, le Terminator revienne carrément au Moyen-Âge, hein. Parce que bon,
même.
entre Thor de Dark World et Game of Thrones, Alan Taylor est quand même connu pour un mec qui fait des trucs plutôt fantasy, quoi.
Ouais.
Au lieu
Non, mais je
d'aller
sais pas.
plus
Le plus
loin.
dur, ça va vraiment être de trouver un acteur aussi charismatique que lui dans le rôle. Hein.
Ouais.
Bah, je
Mais
sais pas, moi, peut-être le mec qui jouait le fils de Bruce Willis dans Die Hard 5?
Oh, elle arrête là.
Ah, oh, pitié!
Appelez-moi troll!
Non, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'a priori, on part vraiment sur du reboot avec peut-être même, tu sais, au lieu de s'en prendre à Sarah Connor, ils vont s'en prendre aux parents de Sarah Connor.
Ça va être original, ça.
Je vois pas pourquoi ils ont pas voulu continuer sur la lancée du Terminator Salvation, qui, même si
Ouais.
c'était pas un super bon film,
Bah, faire
au
un film dans le
moins.
futur, effectivement, ça serait cool, ça.
Bah, il y a
Enfin,
déjà
bien
Robocop, c'est bon.
apocalyptique.
Ouais, mais.
Pardon?
Je suis un petit peu déçu. Après, on en sait très peu hein, sur le synopsis, donc.
Mais c'est comme tout maintenant, il faut qu'ils nous fassent des reboots de tout. Oubliez un jour d'avoir une suite maintenant. Vous n'aurez que des reboots qui marcheront par trilogie.
Qui marchera pas
Apparemment,
d'ailleurs, hein, parce que c'est pas grave.
le public y va quand même en masse. Donc les mecs,
Pas
ils
vraiment.
continuent,
À
hein.
part les Star Trek, il n'y a pas beaucoup de reboots qui fonctionnent. Hein.
Bah, ça a l'air quand même, hein. Ils continueraient pas d'en faire si ça fonctionnait pas.
Bah, ça fonctionne pour les titres de super-héros et les franchises bien connues, mais pour ces films-là des années 80 où il y avait toute une saveur particulière, en général, ça fonctionne pas. Hein.
Ouais, mais quand tu penses que pour des jeunes générations, c'est comme ça qu'ils vont découvrir les choses.
Il
Et
faudra leur
ça fait
présenter les
très
films
mal.
originaux pour leur donner une bonne éducation à ces
Mais
gens-là.
non, mais ils te diront que c'est de la merde parce que c'est vieux, parce que les effets spéciaux sont moches,
Non,
etc.
mais ils
bah
sont
non, parce
jeunes.
que.
Il faut les traumatiser
Et
avec
quand
ces
ils arriveront à
films-là.
30 ans, ils se rendront compte de ce que c'est vraiment le
Voilà,
cinéma
oui.
et ils diront c'est vachement bien. Mais toute
Mais il
leur
faut les
adolescence, ils diront
traumatiser
que
à
c'est de la
15 ans
merde.
avec ces films et c'est bon. Le temps que ça pénètre bien dans le système et 15 ans plus tard, ah oui, c'est génial ce film. Voilà.
Allez, continuons sur le ciné. On va terminer d'ailleurs sur le ciné. Non, pas encore. Il nous reste encore une news après. The Secret Service. Le comic de Mark Millar va être adapté. On le savait déjà hein, par Matthew Vaughn, son grand ami qui fait tous ses films. Et on a cette fois-ci dans le rôle un des rôles principaux, Sophie Cookson qui va jouer.
J'ai jamais entendu
Voilà.
parler.
Une actrice un petit peu inconnue, mais qui rejoint Colin Firth et Samuel L. Jackson, ainsi que...
Vaguement entendu parler.
Ouais, voilà. Et voilà, pour un film qui est
pas
basé
attendu.
Sur un comics que je n'ai pas lu encore, mais qui était en une mini-série en 6. Je sais pas si vous l'avez lu, vous, mais...
Non, non. Pas du tout.
Il y avait marqué Mark Millar dessus, donc je savais que c'était bien.
Ben ouais, quand il y a marqué Mark Millar, j'ai tendance à éviter, sauf quand je peux pas vraiment faire autrement. Donc normalement,
mais
il sortira.
Croit, hein.
Ouais, il devrait sortir le 14 novembre 2014, ce film. Bon, bah, pour son premier grand rôle, elle va fréquenter Colin Firth et Samuel L. Jackson. Je crois qu'il y a pire comme démarrage aussi.
Et Mark Hamill, il me semble. Donc. Voilà.
On verra, à moins que Mark Hamill soit trop occupé.
À moins que, ouais.
Pour Star Wars, dont on va parler tout de suite. Quelle transition magnifique! Quelle transition magnifique!
Presque comme si tu l'avais préparé.
Donc, apparemment, Benedict Cumberbatch aurait démenti avoir un rôle dans Star Wars 7.
Bah, si on peut éviter de mélanger les deux franchises, ça serait pas mal.
Ouais, enfin, J.J. Abrams, il le fait bien.
Il a confirmé.
Oui, en tant
que...
qu'réalisateur, mais tu vois pas sa face devant la caméra.
En même
Simon Pegg avait fait une réponse là-dessus, d'ailleurs, il trouvait que c'était mieux que les acteurs ne passent pas d'une franchise à l'autre quand ils étaient bien connus. C'était un peu bizarre.
Ce qu'il disait, c'est surtout qu'il n'y avait pas eu de négociation en fait, mais que bon, il était pas contre l'idée peut-être de travailler dans un Star Wars. En
tout cas, oui, mais dans un tout petit rôle, je pense. Mais... Vraiment là où on le verrait pas quoi.
On peut bien imaginer.
Voilà, oui. Un masque
t'as pas
ou
vu la fin de Star Wars, Steve.
Ou un alien, tu vois, on verrait pas sa gueule quoi.
Et donc continuons avec d'autres rumeurs. Il y aurait déjà un nouveau titre, enfin un titre, pardon, d'envisager pour l'épisode 7, s'appellerait A New Dawn.
Ouais.
Petite référence au premier.
Ouais, A New Hope. Ouais, ce serait pas très original du coup. Mais...
Bah en même temps, ça rendrait hommage au vrai premier film de Star Wars. Puisqu'on va, ouais. On va éviter de référencer les trois premiers, là. Les numéros 1 à 3. Si on pouvait tous les effacer, ceux-là, ça serait pas plus mal. Hein.
Ah, ça me fait marrer d'entendre ça, après ce que j'ai dit il y a 10 minutes.
En tout cas, moi ce que je trouve dingue, c'est qu'on a vraiment toujours beaucoup de rumeurs, mais très peu d'infos précises
bah,
pour
c'est
un
le
film
système
qui arrive
Abraham,
bientôt.
C'est
et ils arrivent bien à garder le secret. Et... Bon, du coup, ça fait buzzer.
Mais c'est eux qui sortent les rumeurs, j'en suis sûr. Ça fait buzzer un maximum et ça garde l'engouement à mort pour la franchise. Comme si elle en avait déjà besoin, la franchise Star Wars. De toute façon, elle vit d'elle-même depuis très longtemps.
Une nouvelle aube. Ouais, pourquoi pas.
On verra.
Non, c'est pas une nouvelle aube.
Passons à la partie jeux vidéo. Une seule news jeux vidéo cette semaine. Une grosse news, en revanche, puisque Marvel Heroes, le MMO Marvel, arrive à sa version 1.2. Le patch est sorti le 5 septembre, je crois. Et gros changement de gameplay et pas mal d'ajouts aussi. On a de nouveaux personnages qui seront rajoutés au fil des mois. Le premier qui a été teasé est Emma Frost, donc avec l'arrivée des pouvoirs psychiques. Ensuite, nous aurons Luke Cage.
Ouais.
Des personnages quand même relativement emblématiques. Et puis ensuite, nous aurons d'autres personnages. Hein. Squirrel Girl. Alors là, par contre, franchement, il faudra m'expliquer le choix.
Squirrel Girl, qui est quand même un des persos les plus importants de Marvel. Donc...
Ouais, merci Bendis hein, d'avoir imposé à mort ce personnage, encore une fois. Nous aurons Gambit, Nightcrawler et enfin Ghost Rider. Voilà les six personnages qui ont été annoncés pour le moment. Bon, donc des personnages comme Ghost Rider, ça peut être sympathique à jouer, je pense.
Ouais, mais c'est des personnages payants, c'est ça? C'est pas ceux qui sont proposés gratuitement,
c'est ça? Tous les personnages sont droppables dans le jeu. Tu peux très bien avoir tous les personnages sans débourser jamais un seul centime.
D'accord. Okay.
La seule chose pour laquelle tu peux débourser, ce sont des costumes. Enfin, des uniformes différents ou différents costumes qu'ils ont eu à travers l'histoire.
Okay.
Mais tous les personnages, tu as un pourcentage de chance de dropper le personnage à chaque fois que tu butes un monstre.
Ok, d'accord. Moi, je savais pas ça. Je croyais qu'on avait son personnage et qu'on le gardait jusqu'au bout.
Ah non, non, non. Moi, bon, j'y ai pas joué beaucoup. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas rejoué, mais j'avais commencé avec Daredevil. Et très vite, j'avais droppé Scarlet Witch. Et enfin, j'avais eu un deuxième personnage qui avait été droppé, j'avais droppé Hawkeye, et ensuite, comme ça, en milieu d'une partie, j'avais droppé la Scarlet Witch.
D'accord, ok.
Sinon, dans les autres ajouts, nous aurons aussi deux nouveaux modes de jeu. Un mode, alors je retrouve le nom, héroïque et super-héroïque, qui ressemble trait pour trait au mode Nightmare et L de Diablo 2. Puisque je rappelle hein, que ce MMO est en fait une sorte de hack and slash, donc on aura des modes de difficulté plus dur, pour... Enfin, difficulté plus dure, c'est un peu bizarre comme phrase, mais voilà, des modes de difficulté avancés pour ce jeu qui va débarquer. Donc, de toute façon, c'est déjà en cours. Je précise qu'il va falloir retélécharger le jeu quasiment complètement, puisqu'il y a un nouveau launcher et que c'est le gros bordel. Voilà. Donc, préparez un petit peu de temps pour retélécharger, n'espérez pas pouvoir jouer tout de suite. Enfin, ils ont ajouté tout un tas de reliques et de choses qui vont se stacker, enfin qui vont s'accumuler et vous faire un maximum de bonus. Donc vraiment, ils ont changé pas mal de choses. Ça pourra peut-être redonner un petit coup de peps à ce jeu qui, moi, m'avait un petit peu lassé relativement rapidement. Donc pourquoi pas, après tout. Voilà, DC Universe Online continue de sortir des extensions. Il était temps peut-être pour Marvel de faire une grosse mage de manière à redonner un petit peu ce petit côté hype à son jeu et en tout cas faire un petit peu de buzz. Oui, ça vous laisse
Oui, moi c'est un jeu qui m'intéresse pas du tout, mais je l'ai testé 2 minutes et ça m'avait déjà saoulé. Donc.
Et comme personnellement j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo au moment où les dinosaures commencent à disparaître, pas vraiment la bonne personne à qui en parler.
Sinon, on a aussi Fear Itself qui débarque avec notamment la chose version Wordy. Voilà. C'était la petite vanne de fin.
C'était ma contribution à ce commentaire.
Sujet, non,
la fin de petite news. Et bien oui, justement, Marvel, c'est le gros sujet maintenant avec le All New Marvel Now.
Ouais, alors ouais. Un nom bien bizarre. Ouais.
Putain, au service marketing, il doit quand même se chier dessus pour trouver les titres. Hein. Aux nouvelles campagnes.
Bendis, All New X-Men, All New Marvel Now.
ouais, c'est vrai.
Bah écoute, franchement, la référence, elle est tellement là, quoi.
Donc, c'est la deuxième vague, hein. Vous l'avez compris. Enfin, c'est le nom qu'on donne à cette deuxième vague 2.5, en fait, parce qu'on a déjà des titres un peu de la deuxième vague qui arrivent avant le mois de décembre. Et le All New Marvel Now, ça commencerait fin décembre, début janvier.
Bah, ça commencerait le 24 décembre exactement.
Voilà, c'est ça. Et donc, y a des choses intéressantes
pour Noël,
quand même.
C'est beau.
Ouais, il y a quand même des choses pas mal qui sont annoncées.
Non.
Si.
Déjà, en fait, il va y avoir donc un nouvel arc d'Avengers qui sera écrit par Hickman et avec des dessins de Ribitch, qui commencera une nouvelle histoire un peu galactique après Infinity. Et pour lequel, en fait, si j'ai bien compris la news...
Attends, on va s'arrêter là tout de suite. Juste une seconde pour juste rigoler 2 minutes à ce que tu viens d'annoncer. Hein. C'est-à-dire, il va y avoir un nouvel arc de Jonathan Hickman qui va nous faire un arc galactique après Infinity.
Oui.
Ah bon, parce que c'est vrai que Infinity n'était pas du tout galactique, il en avait encore besoin d'en rajouter quand même.
Il a envie de continuer avec le galactique parce que ça lui plaît. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'a priori, il y aurait des codes digitaux pour télécharger, je crois, le premier arc d'Avengers pour pouvoir découvrir le titre. Donc, faut voir comment ça va être distribué dans les comic shops ou dans les comics. Mais en tout cas, c'est une petite idée marketing assez sympa pour découvrir des titres, en fait, et pour pouvoir se lancer sur une série. Donc ça, c'est un petit truc sympa. Et
ce serait
peu le lancement, justement, de cette... De plusieurs nouveaux arcs qui seront peut-être parfois dans des séries existantes, mais qui correspondront à ce All New Marvel Now, puisqu'il y aura également des nouvelles séries qui arriveront, dont on a déjà parlé certaines, et là il y en a une nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui.
Tu as oublié une information majeure sur ce Avengers qui nous a été révélée, c'est que dans ce Avengers numéro 24, eh bien, nouvelle équipe d'Avengers avec des nouveaux membres.
Ouais.
On a attendu... 16 épisodes pour avoir une équipe complète et au 24, on change tout. C'est beau.
On n'a pas dit qu'on changeait tout. Si on regarde la cover qu'ils ont montrée, pour le moment, il n'y a pas de gros changement. Hein.
Ouais, c'est les mêmes sur la couverture.
Oui, mais ils ne vont pas vous les teaser sur la cover dès maintenant, alors que c'est pour sortir en décembre.
Avec Marvel. Hein.
Bon, pas déjà. Ils vont essayer au moins de tenir encore un mois ou deux avant de nous révéler qui va crever à la fin d'Infinity.
C'est optimiste. Hein.
Oh, si. Ils vont jouer gros là-dessus, encore une fois. Alors, on aura, comme tu l'as dit, ce Avengers. On va avoir la série Inhuman de Matt Fraction et Joe Madureira qui débarquera en janvier,
ouais.
Normalement.
Qui faisait donc un peu partie de ces fameux teasers qu'on a eu récemment sur Infinity, sur Est-ce que vous en êtes, machin, bidule et compagnie. Voilà. Alors,
Moi, je dis ça va faire charger comme cover quand même. Parce qu'entre le bandeau Inhumanity qui nous disait qu'on aurait un peu partout et le bandeau All New Marvel Now, elle est où la cover? On va plus avoir de place en fait.
Je sais pas s'ils vont garder le design des couvertures qu'ils ont présentées, mais le gros 1 tout en haut à droite est bien moche aussi.
Bah, s'il n'y a pas de bandeau, moi à la rigueur, cette cover me dérange pas. Je le trouve plutôt agréable à regarder honnêtement.
Ouais, mais il faut pas qu'il y ait le bandeau en bas, ouais, du Marvel Now.
Mais le problème, c'est que le format est. Pas assez rectangulaire pour être un véritable format comic book, donc il manque quelque chose. Parce que je dois avouer que cette espèce de bandeau rouge sur les comics Marvel, je trouve ça un peu dégueulasse quand même.
Ah non, moi ça me va. Change.
Oh, ça, je trouve ça criard. En fait, c'est trop gros. En fait, il y a trop de rouge d'un coup. Alors, il suffit que la cover soit un petit peu rouge, alors là, t'en prends plein les yeux, quoi. Tu saignes. Parlons de l'autre série quand même qui a été annoncée.
Oui, qui elle est toute fraîche. Donc, et qui comprend justement le nom All New dedans. C'est les All New Invaders. Donc avec les Invaders qui se reforment, donc Captain America, Namor, on a Bucky, donc qui sera le Winter Soldier, et la première Torche Humaine.
Toro.
Pour voilà, qui pour une menace encore une fois, je crois, d'origine galactique.
Bah les Kree.
Et en plus je dis Toro et personne me corrige quoi, c'est dingue ça. Mais non, Toro c'était le sidekick de la Human Torch. Mmh. Oh, c'est dingue ça, personne me corrige. Mais corrigez-moi, je te demande que ça.
On aime bien te laisser dans ta merde.
Non, corrigez-moi, frappez-moi. All New Invaders. Alors, annonce l'équipe créative parce que franchement, moi, ça, je veux quoi.
Alors, c'est scénarisé par James Robinson et dessiné par Steve Pugh. Donc, deux transfuges de DC qui ont.
C'est bien. Hein. L'écriture éditoriale chez DC, c'est bien, ça alimente Marvel maintenant.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, James Robinson, c'est son deuxième titre annoncé chez Marvel. Après la mini-série sur Spider-Man et sur sa petite sœur.
Non, c'est une graphique nouvelle.
Oui, mais c'est son deuxième travail qui est annoncé. Et Steve Pugh qui était sur Animal Man avant et qui arrive maintenant chez Marvel. Donc un très bon dessinateur. Donc ouais, c'est une bonne petite équipe.
Alors ça, moi franchement, j'ai vraiment très très hâte de découvrir.
Ah bah non, pas.
Mais tu n'as pas de cœur. Ça...
Non, mais les Invaders, j'en ai rien à branler, franchement.
Oui, mais alors là, Robinson a clairement dit que ce ne serait pas les Invaders coincés dans le passé avec le côté « je me bats contre les nazis en 1944 ». Cette fois-ci, ce sera dans le temps présent et ce sera l'équipe qui se reforme avec ceux qui restent en vie, quoi.
Ouais. Et donc en fait, ça fera la 54e équipe de Captain America, quand même.
Ouais. Mais ce qui est amusant, c'est de voir que Marvel, en fait, se sert de James Robinson un peu comme ce que DC a fait avec Earth 2. C'est-à-dire prendre des personnages anciens et vieux et les moderniser. Donc ça a bien marché avec Earth 2.
Bah, ça avait déjà bien marché avec Starman. Hein.
Et ça avait marché aussi avec Starman. Donc c'est quand même un scénariste qui est capable de prendre des vieilles franchises et de les moderniser. Donc je pense que pour le New Invader, ça peut être sympathique. Après, moi justement, tu me parlais de la première Torche Humaine. Je sais pas du tout où elle en est dans la continuité Marvel, ce qui lui est arrivé en fait.
Oula.
Je sais pas si vous savez vous.
Tu peux lire les séries scénarisées par Alex Ross là, dont je me rappelle plus le nom, qui était sorti.
Marvel.
C'était New Invaders, c'était sorti, je crois.
Ouais, d'accord. C'était sorti il y a 3-4 ans, je dirais.
D'accord. Elle est censée être encore en vie, c'est ça? Du coup.
Mais oui, c'est un androïde.
D'accord. Ah, c'est un androïde. Ok.
Tu connais vraiment pas le perso
non,
en fait.
La torche, la première torche humaine, non, je connaissais pas. D'accord. Ok.
Non, c'est un androïde qui a été développé quoi, et puis qui au contact de l'air, bah en fait, s'est enflammé.
D'accord. Ok.
Voilà, rien de plus. Enfin, c'est vraiment la version courte. Je vous encourage à aller voir Wikipédia, entre autres.
Ça marche.
Énorme site de référence, hein, s'il en est.
Oui, oui.
100% en anglais. Allez voir en anglais.
Oh, franchement, il y a des erreurs sur Wikipédia, mais elles sont quand même pas.
C'est quand même bien pratique. Et
nombreuses.
Il y a tellement de fans de comics en plus qui mettent des articles sur Wikipédia que c'est vrai qu'il y a certaines fiches de personnages ou de comics qui sont beaucoup plus détaillées que les encyclopédies officielles.
C'est clair. En tout cas, voilà, un All New Marvel Now. J'ai du mal. Hein. Je vais l'appeler Marvel Now 2 hein, parce que ça ira plus vite. Pour le moment, en tout cas, avec les deux titres qui sont annoncés, ça annonce plutôt pas mal.
Non. Je suis pas d'accord.
Voilà.
Ah oui, alors donc toi, tu vas pas lire Inhuman parce que c'est Matt Fraction.
Voilà. Non, vraiment là. Non. Ça va me faire chier de pas aller voir Joey Madureira, mais non. Voilà.
Comment tu peux dire des trucs comme ça en disant d'emblée non? Quand moi je dis
ça,
que j'aime
ça,
pas Star Trek, tu me fais oh c'est pas normal, tu vois.
Oui, mais moi au moins j'ai vu le film et je l'ai apprécié.
Mais je l'ai vu le film.
Voilà. Et t'as bien dit que c'était un bon film quand même.
T'as toujours pas vu Inhumans, Sam.
Mais oui.
Oui, mais c'est du Matt Fraction. Et comme à chaque fois, il fait de la merde, ou non?
C'est faux, Okai et FF, c'est vraiment très sympa.
Alors, non.
Mais non, si t'as pas lu les commentaires, Bruno, Sam n'a pas aimé Okai.
Non.
Oh là là. Bon, allez. Et continuons sur cette phase 2, puisque on avait eu un poster teaser à la San Diego Comic-Con qui mettait en avant aussi d'autres personnages comme le Silver Surfer et aussi la Veuve Noire. Et si on en croit justement l'article aujourd'hui qui est sorti dans USA Today, il y aura peut-être des focus sur ces personnages très prochainement. Donc soit dans des séries qui sont déjà existantes, soit peut-être avec la création de nouvelles séries. Voir une nouvelle série Silver Surfer, ça pourrait le faire.
J'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin d'attendre le All New Marvel. Non, il y a déjà les Infinity Comics digitaux qui
Oui,
sont
mais
centrés
en...
sur le Silver Surfer.
Ouais, mais c'est juste un petit truc qui était bonus pour Infinity, mais un vrai titre Silver Surfer,
Oui, mais
justement en version papier, ça pourrait le faire, quoi.
le tie-in n'est pas fini, hein, l'histoire était à suivre.
Ouais.
Donc
C'est...
il y a déjà quand même un bon focus de fait sur le Silver Surfer, et sachant que c'est un truc qui est offert à l'achat du premier Infinity, ça permet à tout le monde de le découvrir.
Ouais, mais c'est un peu fait pour un personnage quand même aussi charismatique et il mériterait presque sa série
Oui, mais c'est
perso,
un
quoi.
personnage qui ne vend pas. Il l'a prouvé à travers les décennies qu'il vendait très peu. Enfin,
Ouais,
je
mais
les
bon,
comprends. Mais ça
faut
me
lui
fait
donner
chier
sa
aussi de pas
chance.
avoir de série Silver Surfer, mais en même
Bah,
temps,
moi,
c'est un
pas du
personnage
tout,
qui
hein.
ne vend pas. Donc,
Il y
le problème,
a...
c'est que souvent, il est mal écrit, le Silver Surfer. C'est toujours le mec qui s'apitoie sur lui-même.
Bah oui, il faudrait un petit peu moderniser ça, mais... Il y a d'autres personnages aussi qui pourraient faire le focus de la phase, de cette nouvelle phase. C'est aussi Falcon, qui, on sait, sera dans le film Avengers 2, et dans Captain America, je crois, d'ailleurs. Donc c'est un personnage qu'ils vont mettre un petit peu en avant, peut-être aussi, peut-être avec un titre Falcon.
Tiens, petite info bonus, hein, puisque tu parles de cinéma et de personnages qui intègrent les comics. Pas Dan Didio, n'importe quoi.
Non, on va en parler plus tard de Dan Didio.
Dan Slott, ils ont le même prénom, c'est pas ma faute. Dan Slott s'est prononcé sur Electro, puisqu'on sait que Electro va être le grand méchant de Amazing Spider-Man 2.
Ouais.
Eh bien, il a déjà dit, préparez-vous à avoir un gros arc sur Electro au moment de la sortie du film.
Oui, comme il
Voilà.
l'avait fait avec le lézard au moment de la sortie du
Exactement.
premier film.
Voilà. Donc au moins
Arc
vous
qui était
savez ce
bien
qui
chiant.
vous attend d'ici les quelques mois qui restent. Hein. Au moment de la sortie du Amazing Spider-Man 2, vous aurez un arc sur Electro dans les comics. Au moins ça c'est clair et c'est réglé. On peut parier déjà peut-être sur la prochaine série, ou enfin parier, en tout cas donner vos envies sur la prochaine série annoncée pour ce All New Marvel Now vague 2.
Alors, je sais
Ben
pas,
un
une
titre.
18e série X-Men et une 24e série Avengers?
Par exemple, moi je dirais un titre Angela ou un titre Falcon.
Oh pitié, non, pas un titre Angela, quoi. Pitié. Oh,
Bah, ça a bien marché pour Trinity of Sin Pandora, tu sais. Qui marche très très bien dans les ventes.
Oui, bien
Ouais,
sûr.
on va en parler
C'est une
tout à
blague.
l'heure. Non, bah. All New X-Factor?
Ah bah, X-Factor,
Ouais.
ouais, si, ça c'est sûr qu'ils vont faire quelque chose. D'ailleurs, c'était annoncé à la fin d'X-Factor qu'il reviendrait sur ces personnages.
Donc forcément, il y a de fortes chances que ce soit un des prochains titres annoncés. Si j'avais une envie, je reverrais bien une petite série Ghost Rider. Pourquoi pas?
Ah, un perso qui est tombé dans l'oubli.
Ah
C'est
ouais,
vrai.
pourtant, la dernière série de Rob Williams, à part le fait de changer le personnage du Ghost Rider en espèce de Ghost Riderette, était pas si mal écrite que ça.
Oh putain, j'ai détesté.
Non, en fait, c'est que le personnage était nul à chier, le nouveau Ghost Rider était nul à chier, mais sinon, je trouvais que, enfin, dans l'ensemble, c'était pas mal écrit, quoi. Oh,
Moi j'ai lu les dialogues, c'était franchement mauvais.
je préférais quand même avoir un Johnny Blaze en Ghost Rider, voilà, un classique quoi, revenir au classique, ce serait plus simple. Bon bah c'est tout pour ce gros sujet. En tout cas, ils nous font des choses qui avancent chez Marvel, et on en sait un petit peu plus pour une rentrée de news comics. C'est plutôt du lourd.
Ouais, pour
Plutôt
des
pas
séries qui
mal.
seront annulées en 18 épisodes, c'est pas mal.
L'éternel pessimiste.
Mais écoute, on sait tous que Joey Mod va rester quoi, 5 épisodes sur Inhuman. Et ils vont nous mettre un tâcheron après, donc voilà, ça va tomber assez vite dans l'oubli. Et All New Invader, ça va avoir quelques bons épisodes, mais bon, faut pas espérer un miracle, à mon sens.
Déjà, c'est mieux que ce que tu disais tout à l'heure. Tu dis, il va y avoir quelques bons épisodes. Tout à l'heure, tu disais, ça m'intéresse pas du tout. Donc,
Ben, ça m'intéresse pas, hein, mais je dis pas que ça va être mauvais.
si on en parle encore 5 minutes, peut-être que tu voudras l'acheter.
Il y a peu de chance, hein.
Allez, on va passer aux brèves comics. On va commencer par de la VF, puisque chez Panini, est annoncé un nouveau mag Ultimate. Alors ça, Bruno, c'est ta spécialité.
Ouais, donc un mag Ultimate Saga qui arrive un petit peu pour combler le retard sur l'univers Ultimate en France, puisque il va falloir être falloir rattraper un petit peu le retard suite à Age of Ultron. Donc voilà. Donc il va y avoir un flash forward avec un Ultimate Universe hors série qui va sortir et qui va comprendre tout l'arc entre les Ultimates et les West Coast Ultimates et qui sortira en décembre. Donc un numéro 1 qui contiendra 6 numéros d'Ultimates.
J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi chercher à rattraper le retard. Je veux dire, même si tu décales la sortie de Cataclysme, c'est pas pour l'importance que ça a pour le moment.
Ouais, mais c'est qu'il c'est quand même un titre qui avance bien en VO au niveau des sorties. C'est-à-dire, il y a presque un ou deux numéros Ultimate qui sortent tous les mois. Et comme ils ont il y a que deux numéros par, enfin, il y a que un numéro tous les deux mois en France. Le retard à chaque fois est de plus en plus important.
T'as l'équivalent d'un épisode par mois, alors qu'aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils sortent un épisode toutes les trois semaines, parce qu'il y a un mois où il y en a qu'un et il y a un mois où il y en a deux, quoi.
Ouais, ouais. Donc, c'est sûr que là, puis ils vont essayer de caler ça, voilà, comme je disais, avec la fin d'Age of Ultron et pouvoir capitaliser dessus et pas qu'il y ait trop de spoil. Voilà.
Ah, c'est clair qu'ils ont fort à faire, les pauvres Panini, franchement, avec le rythme publication de merde de Marvel qui sort n'importe quand. De l'autre côté, chez Urban, au moins c'est carré. Pourquoi ? Parce que DC fait une publication carrée. T'as un numéro par mois, pas plus. Bon, après, leur choix de série, je prends pas en compte. C'est juste que c'est vrai que Panini, de leur côté, ils doivent galérer vachement plus. Hein.
C'est un petit peu plus simple, ouais.
Après,
ça
veut pas dire que.
Accélérer les deux.
Ça veut pas dire que Urban, cela coule douce et ils ont rien à faire. Non, ils ont quand même un travail éditorial à faire, mais c'est vrai que Panini doit galérer pour ses sorties, quoi. À chaque fois, c'est « Ah merde, ça s'est annulé !» Bon, bah va falloir qu'on trouve un moyen de le publier. « Ah tiens, ça, c'est sorti deux fois ce mois-ci, voire trois fois, hein, All New X-Men. »
Ah bah c'est, c'est clairement la galère, hein, puisque il y a pas mal de titres qui jartent sur certains mois pour compenser justement le fait qu'il y a eu beaucoup de numéros sortis. Enfin, c'est un petit peu compliqué pour s'y retrouver, mais au moins, ils sortent presque tout, quoi. Contrairement à Urban.
Ah, ça, par contre, ça c'est vrai. Quasiment tout sort. Hein.
En même temps, Urban nous évite les merdes. Hein, donc.
reste deux, trois séries là, du Marvel là où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Hein. Notamment Journey to Mystery. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu d'en faire pour le moment.
De toute façon, c'est annulé. Donc,
HS.
Oui, c'est annulé, mais la série avait été publiée avant. Ce serait con de ne pas la publier. Surtout qu'elle a une très bonne critique presse, en tout cas.
Très sympa.
Ouais, bof. Hein.
Oh, mais dis donc, Sam.
J'ai lu quelques épisodes, franchement, ça.
C'est pas parce que c'est centré
sur
Sif,
pas un souvenir,
que c'est pas
mort,
intéressant.
Ouais, mais c'est que Sam n'aime pas faire le ménage.
Bon, parlons de femmes fortes, justement, après Sif.
Ouais, mais vu que je viens de faire une blague sur le ménage, je sais pas comment ça va être interprété, ça. Ça, Bruno, là, franchement, ta transition était très misogyne.
Arrête, c'est toi. Moi, je parlais de femmes fortes, je parlais de Sif et tout, et du coup, Batwoman, quoi.
Alors parlons de Silly Bang maintenant. C'est parti. Batwoman 26 sera le dernier numéro de J.H. Williams 3.
Ah, même ça sera le 24, puisqu'ils se font virer avant.
Ah, ça a donc changé.
Ouais, c'est dans il y a 2-3 heures là qu'ils ont balancé.
Normalement, ils devaient partir
à
26.
Il y a 2-3 heures, j'étais en train de regarder Star Trek moi. Hein.
Voilà.
Merde, je peux pas tout faire.
Donc en fait, c'est Marc-André Hicot qui va prendre la suite au numéro 25 et ce sera un Taï Nahir 0.
Ah, j'aime bien Marc-André Hicot quand même.
Ouais.
Ce qu'il avait fait notamment sur le personnage de, j'ai oublié son nom,
Manhunter,
merci, oh putain Sam, merci. C'est encore un personnage noir et rouge d'ailleurs, ça lui portera peut-être chance, mais ce qu'il avait fait sur Manhunter était vachement bon, j'avais adoré. Bref, c'était la transition qui ne sert
à rien. Dan Didio a clairement fait comprendre son problème avec le titre, c'était que c'était pas assez intégré au reste de la franchise Batman, donc maintenant ça sera lié à tous les tailles, à tous les crossovers, à tous les events, donc en fait, en gros à tous les arcs de Batman, c'est ce qu'il faut comprendre.
Alors que si je me rappelle bien les interviews qu'on avait lues de J.H. Williams III quand il avait démarré le titre Batwoman, il l'avait pris parce qu'on pouvait lui laisser faire ce qu'il voulait.
Ouais. Bah, finalement,
il n'était pas
tard, c'est
obligé.
Ans, c'est
bah
plus
oui.
Pareil.
Et donc c'est pour ça qu'ils ont claqué la porte.
Mmh. Entre autres.
Et la réaction de Dan Didio est quand même intéressante. Hein.
non, là on va parler quand même de la vraie raison qui ont suscité ce départ, c'est que Williams et Blackman, je crois que c'est la co-scénariste, avaient toute une série de plans pour la série, notamment le mariage entre l'héroïne et sa copine, la nouvelle origine de Killer Croc et l'affrontement Batman. C'était des plans qui étaient en place depuis quasiment un an, qui étaient très bien connus par le staff éditorial, Et au moment où en fait ils allaient engager ces histoires qui donc étaient plottées, approuvées, le staff éditorial est revenu vers eux pour leur dire non, vous ne le faites pas. Voilà. Donc ils sont un peu retrouvés le nez dans la merde. Donc personnellement je comprends qu'ils s'en aillent, hein, parce que voilà, c'est pas une gestion
Bah
qui est
c'est pas
professionnelle.
correct hein. C'est
Non,
pas
non
correct.
seulement c'est pas correct, mais c'est pas professionnel.
Alors, juste, je vais clarifier juste un point. Williams l'a bien confirmé sur Twitter. Ce n'est pas le côté mariage gay que DC n'a pas voulu, c'était le côté mariage tout
Mariage
court,
tout
en
court.
fait.
Voilà,
Oui,
il
voilà.
y a
Parce que c'est vrai
une.
que ça peut non, mais ça peut prêter à confusion, bien sûr. On peut se de... Tout de suite, on se dit, ah, voilà, ils sont contre le mariage gay, tout de suite. Mais pas cette fois.
Mais ils ont cassé
Non,
tous les
c'est juste
mariages
mariage, hein,
hein,
que
chez
vous voulez.
DC.
Voilà. Chez DC, on veut que les couples vivent dans le péché.
Bah,
C'est.
chez Marvel, on annule les mariages. Est-ce que c'est mieux,
Voilà,
franchement?
oui. Non, chez Marvel, on fait des pactes avec le démon pour annuler les mariages. C'est pas
Ouais, parce que
pareil.
comme ça, parce qu'un divorce, ce serait très mal vu. C'est vrai.
Voilà, oui. C'est amoral le divorce. Alors que le pacte
On
avec
est
le
vachement
démon.
critique ce soir, quand même, je trouve. Et pourtant, on aime tellement ce média, mais c'est vrai qu'on
Non, mais
aime bien le bâcher un peu.
quand c'est sorti cette info, c'était clairement une grosse connerie de la part de DC. Enfin, ça
Ouais.
fait une énorme mauvaise publicité. Ça frustre énormément tous les gens qui aiment le titre Batwoman parce que c'est un titre qui a ses fidèles lecteurs.
Pas
C'est un titre
nombreux,
qui
mais il y en a.
était c'est un titre qui était différent des autres titres DC de par la narration, la qualité graphique, bah, les sujets, le fait que c'était pas justement tout le temps connecté à tout ce qui se passait ailleurs
Ouais, ça
avec
c'était
Batman et compagnie.
plutôt rafraîchissant.
Et par exemple, oui, c'est vrai que ça faisait plusieurs numéros, enfin même depuis Elegy, justement, on nous parlait de Killer Croc et de son implication peut-être en rapport avec Batwoman, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver là-dessus. Il y avait la relation entre Kate et justement Maggie qui était plutôt bien écrite. Et voilà, c'est très frustrant pour les lecteurs de voir comment ça se passe et comment ça va se terminer. Donc heureusement que Vertigo c'est un petit peu à part parce que J.H. Williams 3 aurait pu très bien se barrer et arrêter aussi de faire le préquel de Sandman.
Ouais. Ouais, enfin,
Mais il a fait la part des choses quand même.
ouais,
Mais bon.
honnêtement, il a plus à gagner à faire la préquelle de Sandman qu'à ne pas la faire.
Bah, côté pognon et puis côté aussi aura,
Bah bien sûr,
mais c'est
bien
vrai que
sûr.
ça a dû quand même beaucoup le frustrer et beaucoup l'énerver. Donc
Donc du
c'était
coup,
son
Bendis a
bébé.
déjà commencé à teaser Williams 3 pour le recruter.
Ah bah Marvel, pour son All New Marvel Now, on aura du J.H. Williams 3
Voilà.
sur Black Widow, voilà, je vous le dis.
Et pour finir sur le sujet du mariage, manifestement pour Dan Didio, le mariage entre Aquaman et Mera, il n'y en a pas. Voilà.
Ouais, moi je sais pas, enfin, c'est les premiers à savoir que leur véritable cible, ce sont des adultes, parce que de toute façon, ce sont eux qui ont le pouvoir d'achat. Je veux dire, les adultes, pour beaucoup, sont mariés. Je veux dire, moi, même si je suis pas marié, je veux dire, ça me dérange pas de lire des aventures d'un mec marié. Ça me dérangeait pas
Non.
de lire les aventures de Spider-Man quand il était marié à Mary Jane.
Carrément,
Non.
mais
Quand c'était
bien
bien
au
écrit
contraire.
par
Bien au
Straczyk.
contraire, parce que ça te rappelle des relations de couple que tu as, etc. Enfin, je veux dire, ça te parle à toi en tant que cible qui a grandi avec, quoi.
Le fait est qu'il y a peu d'auteurs qui savent bien écrire les mariages. C'est ça le truc.
Et puis au pire, quand tu relis les vieux comics où ils étaient déjà mariés, mais que quand tu les as lus jeunes, tu n'avais pas forcément compris toutes les références, notamment les nombreuses allusions sexuelles que faisait Mary Jane, que tu les voyais pas toujours, bah, quand tu les lis plus vieux, bah, si tu les vois, quoi. Voilà. Des points qui te paraissaient un peu bizarres ou des réactions un peu bizarres, tu les comprends nettement mieux quand tu les relis ensuite. Ah, moi, ça m'a jamais dérangé, quoi, perso. Enfin bon.
Ouais, mais donc au final, il y a qui de marié chez DC? Il y a que Animal Man. Ils vont nous casser ce
Oui.
mariage bientôt aussi, c'est ça?
Bah
Bah,
maintenant,
ils sont en
en
train
ce
de
moment, ils sont
divorcer, donc.
séparés.
Ouais, donc voilà,
Il a
bon bah
signé les
voilà.
papiers de divorce, hein, normalement, donc c'est bon, hein.
D'accord, donc effectivement, ça va, c'est la bonne ligne conductrice, mais
Voilà,
voilà,
oui.
on voit pas beaucoup d'autres personnes mariées dans l'univers DC.
Swamp Thing, il avait sa meuf, bah elle est morte, donc comme ça c'est réglé.
Bah, elle est devenue l'avatar du Roth, c'est pas la même chose.
Bon, elle est morte.
Oui, techniquement, elle est morte.
Donc le commissaire Gordon et sa meuf, c'est pareil, ils sont séparés. Non, ouais, y a personne de marié hein, chez DC.
D'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce que Bruce Wayne, c'est la question qui n'a absolument rien à voir, mais est-ce que Bruce Wayne a eu une relation suivie depuis la fin de Court of the Owls?
Non.
Paf. Il n'y avait pas cette russe dans
Oui.
Batman The Dark Knight, mais
C'était dans The Dark Knight, mais je crois
j'ai
qu'elle n'a pas
arrêté de
passé
les
le
lire
premier
depuis un
arc.
petit
Hein.
moment, mais. Non, elle est morte.
Ah
Ah
bah
bon?
voilà.
Ah bah bravo. Et
Gregor
donc en
Hitt
fait,
l'a tué il y a 2 mois.
Bruce Wayne ne s'est pas vidé depuis un bon moment quand même.
Bah non, il était avec elle, il lui avait révélé son identité secrète, tout, et puis elle est morte dans l'épisode suivant.
Mais
Mais
c'est pour ça qu'il est autant énervé en ce
tu
moment.
sais très bien que s'il veut tirer un coup, il a Catwoman quand même. Il garde le costume et tout, ils vont sur un toit et hop, hop, hop. Voilà quoi.
PG-18.
Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet que Scott Snyder a pas abordé.
Mais ouais. Donc bah pour en tout cas pour Batwoman ça bah, y a eu beaucoup de rage hein, un peu sur internet hein, que ce soit de la part des fans de la série ou même des autres artistes qui trouvaient ça pas normal quoi, qu'on leur change les plans à 2-3 mois de la sortie des comics mais
mmh. Surtout que c'était comme je l'ai dit c'était des plans qui étaient approuvés de longue date en fait.
Ouais, ouais.
Finalement Rob Liefeld avait raison. C'est ça qui fait peur dans l'histoire.
Ouais ouais ça fait mal de le dire mais oui.
Non mais eh après si... avec on a parlé de Robinson tout à l'heure et c'était un petit peu pareil aussi.
C'est... Mais bien sûr mais c'est pas le premier à claquer la porte et il y en a eu tellement d'autres. Il y en a eu tellement d'autres. Chez DC on les compte on n'a même plus assez de doigts pour les compter même en ajoutant les doigts de pied.
Toutes les trois semaines toutes les deux semaines en général on a un truc.
Pardon. Eh bien, si malgré tout ça, vous avez quand même encore envie de bosser chez DC, DC recrute actuellement, notamment oui. Pour le Harley Quinn numéro 0. Rappelez-vous cette nouvelle série qui va être lancée par Jimmy Palmiotti et Amanda Conner au scénario, et dont le numéro 0 sera un panaché de plein d'artistes. Eh bien, vous pourrez avoir une page de publier, une page à vous publier dans ce Harley Quinn 0. Et pour ça, il faut vous rendre sur dcetalentsearch.com. Vous aurez toutes les informations. Vous avez en fait la partie du script à télécharger et vous faites une page en quatre cases.
Quatre cases, ouais. Donc avec des situations bien farfelues qui doivent être assez sympas à dessiner en plus.
Au pire, allez télécharger, vous aurez une partie du script et vous saurez à l'avance ce qui se passe au moins sur cette page-là. Ce seront Dan DiDio et Jim Lee eux-mêmes qui choisiront le vainqueur. Et
oui, ils ont des goûts tellement assurés.
Et le résultat, les candidatures sont envoyées avant le 1er octobre. Voilà. Ce qui est quand même, je trouve, relativement tard, sachant que le comic est censé sortir en novembre.
Oui, mais c'est le nouveau DC. Ouais. On fait tout au dernier moment.
Ouais. Vous serez payé au même prix qu'un autre dessinateur classique.
Ça peut être pas mal. Bon, ça fait du en gros 150$ la page à peu près quoi. Voilà. À peu près.
Après, c'est surtout la chance d'être dans un numéro zéro autour d'artistes quand même très très bons pour ce numéro qui va être assez cool quoi.
Oui, et puis c'est surtout que DC, DC en faisant ça va sûrement recruter quelqu'un. Il y aura sûrement un projet à la clé chez DC par la suite pour ça.
Puis là, côté public relations, c'est quand même plutôt cool. Ils se font bien voir. On donne la chance à des artistes et tout. En plus, c'est pas limité aux États-Unis. Des artistes de tout le monde entier peuvent se proposer. Donc, non, c'est cool.
Ce qui est con, c'est que ça tombe la même semaine que l'histoire avec J.H. Williams 3, quand même.
Voilà, ouais. Ça par contre, ouais, c'est un peu naze. Mais...
Voilà, si vous êtes pas effrayé, bah, n'hésitez pas. C'est vrai que ça peut être un bon gros tremplin, quand même.
Ouais, bonne chance. Hein.
Justement, on parlait d'Harley Quinn. Dans ce numéro 0, on avait plein d'artistes, et notamment un de ceux-là devait être le nouvel artiste régulier. Ça a été annoncé, et ce sera...
Chad Hardin. Voilà.
Qu'on n'est pas du tout, mais c'est pas grave.
qui a fait quelques boulots chez DC sur des petites séries dans les New 52, mais qui a un style plutôt sympa. Enfin, sur la news où on voit cette information, il y a 2-3 petits sketchs qui sont plutôt cool, on va dire.
Bah, c'est assez cartoony, ça correspond bien avec l'ambiance, je pense, que vont essayer d'instaurer Palmiotti et Conner.
Ouais, c'est ça.
Voilà, on continue avec d'autres changements créatifs chez DC. Après le crossover Krypton Returns, les changements vont s'opérer sur Supergirl et Superboy. Sur Supergirl arrivera Tony Bédard au scénario, donc, le scénariste préféré après Matt Fraction de Sam.
Voilà, donc à brûler le comics. Hein.
Avec en dessinateur Ildi Ray Sinar et Ray McCarthy.
Donc si vous aimez la série, elle est morte.
Avec le nouveau logo.
Oui, avec le nouveau logo. Tu as dit Sam, je t'ai pas entendu.
Donc si vous aimez Supergirl, vous pouvez la considérer comme morte.
Bah, relisez l'ancien univers.
Ouais.
Parce que franchement, moi jusqu'à présent, ça me passionne pas. Hein.
En plus, avec ce qu'ils ont fait sur Cyborg Superman, je crois que c'est mort.
Il y a pire, il y avait l'épisode du Creeper hein, cette semaine, écrit par Dan DiDio avec plein de monde, et c'était vraiment le pire des pires des pires. Ça bat le Joker tellement c'était pourri.
Bah, de toute façon, pour le moment, le Villain's Mind, c'est un peu de la merde.
Ça c'est dit. Là, apparemment, Supergirl a enfin trouvé sa place dans l'univers. Il était temps au bout du 26e épisode. Oui, je sais, je fais le gros troll, mais franchement, sérieusement, depuis le premier numéro, on nous dit « elle cherche sa place ». Putain, si 2 ans après, elle l'a pas trouvé, merde, quoi.
Et bah si, elle l'a trouvé bastonner et faire chier Superman.
Ouais, ça, elle est très bonne. Et surtout pas parler l'anglais, quoi. Mm. Ça, c'est casse-couille aussi. Et dans Superboy 26, arrive une nouvelle équipe créative. Marv Wolfman reprend du service sur Superboy avec Andrés Guinaldo au dessin.
Ça peut le faire.
Ça peut le faire quand même. Autour de Wolfman.
Il prend en plein milieu d'un arc. Ça, c'est un peu casse-gueule. Il prend en plein milieu de l'arc Forever Evil.
Ah, le pauvre.
Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est un arc où il y a quand même tous les Teen Titans. Donc, Marv Wolfman sur les Teen Titans, quoi, ça peut le faire.
Ah ouais.
Ah, d'un seul coup.
Alors, je pensais aux Teen Titans en se faisant Burke, et puis finalement repris par Marv Wolfman, peut-être sauver la maison.
Ouais, mais le problème c'est qu'il va les faire apparaître dans Superboy et il aura pas forcément le contrôle sur les Teen Titans ensuite.
Bah, il peut virer Scott Lobdell ensuite.
On n'est pas à l'abri d'un changement créatif, c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
À savoir que pour ce premier épisode, le Superboy 26, il aura un co-scénariste avec lui, ce sera Frank Anna, que je ne connais pas.
Du tout.
Si on le voit un petit peu sur pas mal de titres d'essai, mais.
Ah, j'ai pas fait attention.
Plutôt les petits titres.
Peut-être un des fils cachés de celui qui bossait avec Barbera. Non, mais c'était vraiment pour essayer de finir sur une vanne, parce que j'avais rien à dire sur ce monsieur. Je ne jugerai pas son travail, je ne le connais pas. Enfin, chez Vertigo, pour terminer, nous avons enfin la date du retour de American Vampire.
Voilà, donc mars 2014, le retour de American Vampire.
Et Flo, en écoutant cette émission, fait des bons.
Voilà,
il fait des bons sur son siège. Même s'il était déjà au courant parce qu'il a déjà vu la news. Mais c'est pas grave. Il fait quand même des bons sur son siège parce que je l'ai dit. Allez, on passe à la suite.
Danse, petite marionnette, danse.
C'est dit avec tellement de classe. On va passer au top des ventes. Bien sûr, on va pas faire de news Marvel. On en a déjà fait dans le gros sujet. Le top 100 des ventes du mois de août. J'allais dire du mois de septembre, du mois d'août. Sans surprise, première place, Infinity.
Archie.
Infinity est de loin.
Infinity est de très loin, ouais, ouais. Apparemment.
Et en plus, il était bien cher, donc dans les popoches, des sous dans la popoche pour Marvel.
Ouais, certes, mais pour une fois, le prix, moi, je le trouve totalement justifié. Parce
ça valait
qu'on avait
tout à fait
aussi le comic digital, et franchement, vu le nombre de pages et le nombre de lectures qu'il y avait à faire, c'était franchement, voilà ce que j'appelle un comic rentable.
Ils se sont pas foutus de notre gueule.
Clairement. Après, on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais au moins en termes de contenu, il y avait ce qu'il fallait et les $5 sont dépensés relativement intelligemment. Pour une fois. Ça change d'un All New X-Men.
Oui, qui continue à très bien se vendre.
Je tire sur l'ambulance, je sais. Continuons sur le top, deuxième place, Superman Unchained, numéro 3, qui continue de cartonner chez DC.
Oui, mais qui rejoint les chiffres de Batman. Donc, à voir, ça continue à baisser.
Batman qui donc prend la troisième place, place habituelle pour Batman.
Voilà, oui. Et qui, une fois que Infinity et Superman Unchained seront passés, ben, il reprendra la première place.
À noter en parlant de comics chers que le Batman 24, j'ai vu ça il y a pas longtemps, fera $7 quand même. Donc ce sera un numéro qui fera 60 pages. Comme il y aura
c'est
une pause
de bonnerie.
Voilà. Donc préparez vos sous pour le mois d'octobre.
Ah mais non mais alors DC après nous avoir soutiré un max de fric avec ses 3D covers va continuer donc.
Voilà. À vous avoir soutiré un max de fric. Parce que moi j'ai réduit ma pool list DC au minimum.
C'est-à-dire zéro.
Voilà, oui. Ah oui, pour le Villain's Month, là ça sera quasiment zéro, hein, parce que j'en ai lu 2-3, c'est vraiment pas terrible.
La suite du top, c'est Justice League numéro 23, suivi de Justice League of America numéro 7.
Ouais, donc
oui,
pour le
Infinity War. Et le Justice League Dark, qui, alors qu'avant on se traînait à la 75e place, ben, remonte à la 16e.
Voilà.
Ça veut dire que tout le monde n'a quand même pas acheté ces...
oui, c'est
la cinquième
bizarre,
partie.
Hein.
C'est assez
étrange. Doit faire 15 à 20 000 personnes qui n'ont pas acheté la suite.
Alors qu'en plus, c'était peut-être une des meilleures parties du cross. Mais enfin bon, c'est pas grave.
Ah, parce qu'il y avait des trucs bien dans ce cross.
Bah, toutes les parties écrites uniquement par Jeff Lemire étaient bien, ouais.
Ah bon.
Sincèrement.
Bon, bah tant mieux.
Continuons. Batman Superman numéro 3 se classe à la 6e place.
Je comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave.
Oh.
Bah, c'est Batman et c'est Superman.
Oh, mais non, c'est bien.
Bon, c'est pas terrible.
C'est un peu lent.
Je vous merde.
Mais je te cule.
Ah, bah je préfère. Non, pardon. Non, je voulais pas le dire. On m'a forcé.
Bah, c'est la vie
de la merde.
Ça restera
pour la postérité, si.
Je sais. 7e et 8e place, Superior Spider-Man. Voilà quelque chose qui me cule.
Un très bon titre.
Bof.
J'adore, on a tous des
Mais
avis
tant mieux,
complètement différents. C'est génial. 9e place, Avengers 18, donc tie-in à Infinity.
Donc là aussi, des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas jugé les bons d'aller lire la suite.
Bah, en même temps, vu le numéro 2 d'Infinity, ils pouvaient largement le zapper, tout est répété.
Après, ça dépend, parce que j'ai eu des clients en comic shop qui ont eu du mal avec le 2 sans lire Avengers et New Avengers. Et c'est vrai que ça, on apprend pas mal de choses dans ces deux titres, et c'est des vrais vrais tie-in, ceux-là. C'est pas comme.
Bah mais écoute, Flo les avait sautés, il a pas eu de mal à comprendre Infinity 2 hein, quand il nous en avait parlé dans le dernier weekly.
Ouais, mais bon, je pense que c'est quand même mieux. Pour l'instant, en plus, ils sont
oui,
de très
oui,
bonne
non,
qualité,
mais je suis
Avengers et
d'accord,
New Avengers.
Je suis d'accord, c'est mieux, mais honnêtement, pour quelque chose qui était soi-disant essentiel, on peut presque le s'en passer. Bon. Enfin, 10e place, nous avons All New X-Men 15.
Voilà.
Sans commentaire.
Donc,
oui, voilà, sans commentaire.
on a 5 Marvel et 5 DC dans le top 10. Mais
Walking
plutôt...
Dead,
ce...
pardon, ouais. Excuse-moi.
Non, 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 mais plutôt, le... plutôt des DC devant, sauf Infinity. Quoi.
Walking Dead se place à la 12e place. Toujours,
ouais.
Toujours assez haut, hein, quand même. Hein. Ça marche
ouais.
vraiment du feu de Dieu. Et puis après, pour trouver un titre indé, eh bien, il faut descendre. Descendre à la 22e place pour trouver Saga numéro 13.
Qui bat tout son record, là.
Qui cartonne. Hein.
Même après plusieurs mois de pause, ça revient et ça se vend encore mieux qu'avant.
Ouais. Mais ça, c'est la bonne politique d'Image aussi de sortir le deuxième TP à peu près en même temps que la sortie du Saga 13. Ce qui fait qu'on peut enchaîner. Les gens qui suivaient en TP, après, ils peuvent enchaîner en single. Et, donc ça a bien marché.
Et puis faire des petites pauses comme ça, ça permet aux auteurs et aux dessinateurs de revenir en pleine forme et de pas, de peut-être être moins lassés ou de moins rushés et donc d'avoir un comic qui garde une qualité constante. Mmh. Et il est suivi de très près, donc à la 24e place, par Kick-Ass 3 numéro 2.
Là aussi on comprend pas, mais c'est pas grave.
Bah, y a l'effet film aussi. Hein.
L'effet film, ouais, je pense.
L'effet film, oui.
Quand on regarde le top, là, quand même, hein, jusqu'à la 30e place, on est quand même dans du mainstream. On n'a que 3 titres indés hein, jusqu'à la 30e place. C'est vraiment peu. Hein.
Mais bon, je suis content de voir Thor God of Thunder 12 si haut. Parce que c'était un putain de bon épisode.
Et oui, il est classé à la 30e place et le 11 est classé à la 28e.
Mm. Par contre, je comprends pas pourquoi Hunger est devant. C'est une insulte à l'intelligence, ça.
Ah non, mais honnêtement, moi, je suis un peu surpris parce que... Il y a vraiment très peu de comics indés, quoi. On
non,
a
c'est traditionnel,
West,
dans le top 30, qui n'est pas grand-chose.
Ah, on a connu des mois avec plus que ça. Là, vraiment, le mainstream domine, je trouve, a repris un peu de mordant sur ce mois d'août. East of West est 51e pour le numéro 5. On a le Star Wars 8 qui est 44e. Donc, ça nous en fait 5.
Le Trillium si qui est 70e.
Ouais, mais ça nous en fait que 5 dans les 50 premiers. Hein. Ça fait pas beaucoup, quand même.
Et on voit les futurs annulés, X-Men Legacy, qui va bientôt être annulé. Ça, c'est assuré.
Honnêtement, je me demande comment cette série tient encore. Pas parce que c'est pas bon, mais parce que je suis pas sûr que le grand public suive.
Ouais, Astonishing X-Men qui va bientôt y passer.
Ouais, bah ça, il serait grand temps aussi.
ouais, ça, c'est personne suit.
Passons quand même maintenant au top 10, au moins. On va s'arrêter au 10 des graphic
oui.
novels. Bon bah,
Walking
il
n'avait
pas, c'était Walking pas le cas le mois dernier, mais c'est Walking Dead TP numéro 1 qui reprend la tête du top, encore. Mais sérieux, les gens les achètent en quadruple, c'est pas possible.
Non, mais c'est des nouveaux lecteurs en fait, c'est vraiment ça.
Mais je sais, mais il va plus rester beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu quand même, hein, ou qui ne l'ont pas chez eux, parce que franchement, vu le nombre de fois où il est en top de vente,
bonne nouvelle aussi le tome 7 de Chou, qui suit juste derrière.
Ouais. Ouais. Alors même si l'indé n'est pas beaucoup présent dans le top 100 des singles, enfin au moins dans le top 50, en revanche dans les graphic novels ça marche à mort. Puisque nous avons ensuite donc Rocket Raccoon, cette bonne opération à 7,99 de Marvel. Mm-hmm. Mais ensuite, à la 4e place, Saga volume 1. Et à la 5e, Saga volume 2.
C'est bien les gens, c'est bien.
Non mais oui, voilà, vraiment, Image Trust, les premières places du classement du graphic novel, enfin, et des TPB. Nous avons ensuite My Little Pony Digest TP volume 1 à la 6e place.
Si tu le lis.
Suivi de Deadpool TP numéro 2 en 7e, Superior Spider-Man TP numéro 2 en 8e.
À tes souhaits.
Le Flash TP numéro 1 en 9e place, et enfin la 10e place du BPRD.
Ah ça c'est bien.
Hell on Earth, volume 6, exactement. Voilà. Et un égaré. À la 11e place, nous avons Naruto. Qu'est-ce qu'il fout là ? Mais retourne au Japon, toi, dis donc.
Non, et puis c'est ce qui m'énerve, c'est le tome 62, alors qu'on est qu'au 60 en France.
Ouais.
Comment
dépêchez-vous,
il vous nique,
dépêchez-vous,
les Américains.
Dépêchez-vous, Kana.
Oh, putain, on est en France, on devrait avoir l'exclusivité et l'avance sur tout, quand même.
Ouais, oui, ça craint, là.
Tu sais pourquoi
manga,
Kana est en retard ?
Non, mais tu vas dire une connerie.
Ouais, je le sens.
Bah parce qu'ils ont trop fumé, voilà. C'est fait. Merci. Passons à la suite. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau comme van, quand même.
Ouais, j'ai pas compris. Passons à la suite.
Sinon, nous avons des très bons TP hein, dans les places suivantes, mais on ne va pas les lister maintenant parce que nous n'avons pas le temps.
Voilà, et puis t'aurais pas gagné un prix avec ta blague, contrairement à d'autres comics.
Okay. Alors merci pour cette magnifique transition, puisque nous allons parler maintenant des Harvey Awards. Donc les awards un petit peu concurrents aux Eisner, qui sont décernés à la Baltimore Comic Con, qui s'est tenue ce week-end.
Donc par les professionnels, il me semble.
Oui, c'est par les professionnels, oui. Cette fois-ci, en scénariste, nous avions de nominés, alors je ne vais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, je vais vous donner les noms, Matt Fraction, Joe Hill, Tim Seeley, Scott Snyder, Brian Kevogan et Mark Waid. Et c'est Brian Kevogan qui a gagné.
Oui, déjà Matt Fraction, on comprend pas ce qu'il fout là, mais c'est pas grave.
Principalement pour Saga. Il a été nominé pour Hawkeye. Il le mérite amplement.
Non.
Mais si, il mérite d'être nominé, je suis désolé.
Non.
Saga, un titre.
La critique est unanime, sachant que là, cette fois-ci, ce n'est pas des.
Mais je chie sur la critique.
C'est pas des gens qui ne vénèrent que l'indé qui ont lancé, enfin qui ont fait ça. D'ailleurs, les Harvey Awards sont faits par des professionnels, mais aussi des votes du public. Donc ça peut être aussi aidé à ce que certains soient nominés ou pas. Au niveau dessinateur, nous avions David Aja, Greg Capullo, Mike Norton, Chris Samnee et Fiona Staples. Et c'est Fiona Staples qui a gagné encore pour Saga.
Bravo.
Ça fait donc déjà deux pour Saga. En encreur, nous avions Steve Ellis, Jonathan Glapion, Klaus Johnson, Mark Morales et Bob Smith. Et c'est Klaus Johnson pour Captain America qui a gagné. Il le mérite parce que
bravo.
C'est vrai que... un bon retour, hein, je trouve, de Klaus Johnson, enfin du tandem Johnson-Romita,
ouais.
Sur Captain America. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus si en forme tous les deux. Ah, ça m'a même pas une vacherie à dire.
C'est non, terrible. Là, c'était très bien Captain America.
Ouais,
bon,
non,
sur la fin, il était un peu fatigué, Romita, hein, quand même. Le 8e et 9e épisode, là, je l'ai un peu senti. Il avait eu du mal.
Ouais, mais ça reste quand même meilleur que ce qu'il avait fait ces dernières années.
Ouh là, oui. Mais c'était pas difficile non plus.
En coloriste, Laura Allred était nominée, Matt Hollingsworth, Tito Pena, Ed Rizowski et Fiona Staples. Et devinez qui a gagné ?
Fiona Staples.
Pour Saga, troisième, boum.
Bravo.
Cover artiste, Fiona Staples était nominée, ainsi que Adam Hughes, Jenny Friesen, Steve Ellis et David Aja. Et ce n'est pas Fiona Staples qui a gagné cette fois-ci, c'est David Aja pour les covers de Hawkeye qui sont toutes sublimes.
Bon, moi j'aurais donné à Adam Hughes, mais bon.
Oui, moi aussi.
Pour les covers de Ferrest, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Meilleure nouvelle série, nominée Adventure Time, Hawkeye, New Crusader, Rise of the Heroes, Revival et Saga. Et bien sûr, c'est Saga qui a gagné.
Normal.
Voilà.
C'est plus très New hein, maintenant, quand même. Il y a
mais ouais, je comprends pas trop pourquoi ils ont encore classé dans New. Meilleure série régulière ou limitée, peu importe. On avait Batman, Daredevil, Hawkeye, Lock and Key, Rachel Rising et Saga. Et c'est Saga qui a gagné.
Bah, bravo. Ils ont trusté toutes les places.
Ah, j'ai arrêté de compter, ça y est. Un truc qui va faire plaisir à Sam, dans le meilleur graphique album, nous avions Building Stories, The Carter Family, Don't Forget This Song, My Friend Dahmer, Richard Starks Parker, The Score, et Underwater Welder, de chez Top Shelf.
Et donc c'est Parker qui l'a emporté.
Et c'est
très
Parker
bon choix,
qui l'a emporté, ouais.
Comme quoi, il y a encore de l'espoir pour l'humanité.
Underwater Welder
débarrassés de leur penchant pour Matt Fraction, et ça sera bon.
Underwater Welder aurait pu le gagner aussi, Sam.
C'était très bon. Ouais.
C'était très très bon. Meilleur numéro.
Meilleure histoire.
Ou histoire.
Oh, mais qui ça peut bien être.
On avait Batman 12. On avait encore Building Stories.
Sans déconner, Batman 12. Mais c'était une grosse merde cet épisode.
Je sais, je comprends pas ce qu'il fout là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Hawkeye numéro 1.
Qui était une grosse merde aussi.
Lock and Key Grindhouse.
Ta gueule.
The Mayer. Saga numéro 1. Et Tales Design to Threasle numéro 8. Et c'est Saga numéro 1.
Voilà.
Voilà, bon, il y a encore plein d'autres, on vous a cité grosso
modo.
Saga,
c'est quand même plutôt pas mal, on va dire.
Les plus importants, on peut noter en meilleure anthologie Dark Horse Presents, hein, qui continue de remporter des prix. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Dans les meilleurs nouveaux talents, Denis Soples pour Avengers Arena l'a remporté.
Ouais, mais non, ça c'est très tout à fait mérité.
Non.
on va jamais y arriver de toute façon.
Donne-moi ton adresse.
En meilleur album, en meilleure édition américaine d'un album étranger, c'est Black Sad de Silent Hell qui a gagné, qui a été publié chez Dark Horse.
Très bon choix.
Voilà. Meilleur comics online, c'est Battle Pug de Mike Norton.
Ah, ça c'est énorme, Battle Pug. Histoire d'un chien de combat.
Tu le lis.
Et enfin, dans la catégorie humour dans les comics, c'est Ryan North pour Adventure Time.
Voilà. Ryan North qui est aussi très bon dans le polar avec Hit cette semaine.
Adventure Time qui a gagné un autre award, celui de la meilleure publication pour jeunes.
Si tu le dis.
Voilà, bon, c'était pour, histoire d'être voilà. À peu près complet.
Bon, déjà, il y avait plus de titres qu'on connaissait que dans les Eisner Awards.
Mais déjà, c'était pas la part belle à l'indé sorti de nulle part, l'indé relativement élitiste.
Non, mais
c'est... L'indé lu par 300 personnes.
Ben, voilà. Les trucs, ils sont même pas sollicités, quoi. Tu trouves même pas dans les previews.
Non. Mais bon, donc Saga, une valeur sûre.
On va passer au reste de l'actu, on va finir très vite avec l'actu indé, quelques petits mots. Georges Pérez avait été annoncé déjà chez Boom et on sait qu'il va arriver sur une série qui s'appellera She Devils, une mini en 4.
Ouais, avec des nanas, avec des pouvoirs, une couverture qui est pas trop mal hein, pour du Georges Pérez. Donc j'espère que
c'est bien Georges Pérez. C'est très bien Georges Pérez.
Non mais
Je suis désolé mais les numéros qu'il a fait sur World's Finest avec Huntress et Power Girl, c'était vraiment pas beau, quoi. Il savait, c'était moche.
Mais il était peut-être pas inspiré par le projet, hein. Quand il en a vu déjà comment il s'était fait traiter sur Superman, le mec avait peut-être pas envie de donner son meilleur aussi. Voilà.
Par contre, on n'en sait pas grand-chose, hein. She Devils.
Non, on n'en sait pas grand-chose. Bon, on sait que c'est lui qui scénarise et qui dessine. Et il sera colorisé par Steve Downer. Voilà. Continuons avec un projet chez Image qui vient de prendre du plomb dans l'aile.
Ouais, ça c'est fait mal ça.
Ten Grand, la série de JMS est dessinée par Ben Temple-Smith. Le revival du label, comment ça s'appelle ?
Joe's
Comics, voilà. Moi j'avais lu les premiers numéros, j'avais trouvé ça très bien. Je ne sais pas si vous les aviez lus aussi.
C'est pas mal du tout.
C'est pas mal.
Eh bien, je ne sais pas quand on verra la suite puisque Ben Temple-Smith fait le mort. Tout simplement.
Ouais, en fait, on sait qu'il y aura une suite, c'est juste que, en fait, Ben Temple-Smith a été contacté par le scénariste, mais il n'a pas donné signe de vie, effectivement, et il lui a donné une deadline. Il a dit si jamais tu ne me contactes pas avant le 30 juillet, ou le 30 août, je ne sais plus, non, le 31 août.
En fait, il l'a prévenu le 27 août et il lui avait demandé au moins de donner un signe de vie, même un SMS, avant le 31 août.
Mais ça faisait déjà un mois qu'il attendait des nouvelles de lui aussi. Et donc, en fait, il a choisi un nouvel artiste pour faire la suite de Ten Grand. Qui sera C.P. Smith. Et voilà, donc ça va continuer avec un nouvel artiste. Temple Smith a réagi 2-3 jours plus tard en disant qu'il a été très pris pendant l'été et qu'il n'a pas eu le temps de répondre. Straczynski était du coup plutôt rassuré de voir qu'il allait bien, parce qu'ils ont même eu peur en fait pour lui.
Ouais.
Mais au final, ils ont dit qu'ils étaient toujours en bon terme et tout, et qu'ils travailleraient peut-être à nouveau ensemble sur un autre projet. Mais c'est un petit peu dommage que ça s'arrête la participation de Ben Temple-Smith sur Ten Grand.
Bah, c'est surtout que c'est absolument pas professionnel de la part de Temple-Smith.
Bah, d'après ce que j'ai compris, c'est surtout qu'il avait des merdouilles d'ordre personnel qui sont venues interférer, quoi.
Ouais, mais quand t'as du travail, techniquement,
oui, bah,
tu préviens.
Pro. Effectivement, c'est pas pro. Après,
voilà,
il a dû faire des choses.
N'importe quelle entreprise, tu te pointes pas au boulot pendant ne serait-ce que 3 jours, tu te fais gerter, quoi. Alors là, certes, c'est un boulot créatif, on n'est pas avec des horaires de bureau, etc., mais déjà, même de ne pas te pointer une journée sans prévenir, t'as de chances de ne pas retrouver ton boulot le lendemain. Là, le mec a pas... Alors, certes, il n'a pas updaté du tout ni son compte Facebook ni Twitter pendant plus d'un mois, mais quand même, quoi. Quand t'as du travail, tu t'absentes pas comme ça sans prévenir. Enfin, je sais pas, c'est le minimum.
Bah oui, quand ton boss voilà, tu parles à ton boss, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que cette espèce d'isolation était un peu bizarre.
Ouais. Après, il y a des créatifs comme ça qui sont un petit peu farfelus, on va dire, qui aiment bien vivre un peu dans leur bulle. Mais
de toute façon, je pense que tu n'as pas le style torturé qu'a Ben Temple-Smith si tu n'es pas un peu perturbé, mais c'est pas forcément péjoratif, mais je veux dire,
Mais
t'as
bon,
pas
en
un
tout cas,
style
coup,
pareil, ça déteint forcément sur toi, ou c'est ta personnalité que tu mets dans ce style-là, et vu le style de Ben Temple-Smith.
Après, donc voilà, Ten Grand va quand même continuer, c'est juste dommage, ce sera avec un nouvel artiste.
Bon, bah, on sait pas quand.
C'est
le problème.
A priori, il y aura pas trop de retard, hein, parce que.
Le numéro 5 devait sortir le 25 septembre, mais on ne sait pas si ce sera un numéro de Temple Smith ou de C.P. Smith, et on ne sait pas s'il sera à l'heure non plus pour le moment.
Voilà, mais le scénario est fait, il ne reste plus qu'à dessiner. Quoi.
Bah, espérons que, pour JMS, que ce ne soit pas comme ça pour son autre série Sidekick, ou qu'il n'ait pas d'autres problèmes sur Ten Grand d'ici la fin, parce que c'est vrai que ça peut jeter un petit peu le froid sur ses publications. Quoi. Mm. Continuons avec Mark Waid. Mark Waid, qui est bien sûr, comme vous le savez, le directeur de Thrillbent, une plateforme uniquement digitale, eh bien, il a acheté un comic shop.
Bah voilà, c'est bien. Il n'est pas que pour le digital.
Bah, il a jamais dit qu'il n'était que pour le digital.
Non, mais
c'est
en rigolant. Et il le dit même dans l'interview que ça lui faisait vraiment plaisir d'avoir, comme ça, de pouvoir financer un comic shop.
Voilà, c'était pour soutenir un collègue, enfin c'était son comic shop en fait, dans lequel il allait depuis des années. Le propriétaire avait des projets d'expansion depuis des années, mais il avait jamais eu les moyens ni le temps de s'investir là-dedans, et en fait, Mark Waid a mis de son propre argent pour répondre à ses projets, quoi.
Je crois qu'ils vont être tranquilles là pour avoir des invités dans ce comic shop.
Je pense ouais, que bizarrement, Mark Waid, ouais, je pense.
Il aura pas trop de mal à faire venir du monde.
Alors le comic shop s'appelle Alter Ego Comics et il est situé 111 E Adam Street à Muncie dans l'Indiana, si jamais vous faites un voyage.
Voilà, peut-être qu'il sera d'ailleurs au comic shop, Mark Waid.
Mais comment Mark Waid arrive à faire tout ce qu'il fait? Je comprends pas. Ce mec doit se shooter aux boissons énergisantes, c'est pas possible. C'est pas possible, ou alors il a des clones, ou je sais pas, ou des esclaves peut-être.
Ou pas de vie privée.
Dans l'Indiana, c'est un état sudiste, non? Le mec qui relance la guerre civile. C'est... Allons-y. Non, mais enfin, ouais, c'est assez impressionnant que le mec ait le temps de faire tout ce qu'il fait, quoi.
Ben, peut-être qu'un jour, il arrivera à écrire des scénarios de Daredevil et Hulk qui m'intéressent.
Qui t'intéressent, peut-être.
Ça, tu sors.
Peut-être que ça ne t'intéresse pas, mais ils sont très bien. Voilà. Non. Ça ne t'intéresse pas, c'est tout. Allez, c'est tout. Ah, allez, c'est tout.
Parlons d'un autre grand scénariste.
Un jour, peut-être qu'il se passera un truc et que ça m'intéressera, ouais.
Mais il s'en passe plein des trucs, c'est juste que tu les lis mal.
Parlons d'un autre grand scénariste.
Mais tu les lis dans quelle langue? Tu les lis en espagnol, c'est pour ça que tu comprends rien en fait. Je sais que tu essaies de me faire une transition depuis tout à l'heure,
Bruno. Sais, je vois
autre scénariste, Stan Lee, qui, en tout cas, la boîte qu'il avait créée et qui depuis existe de son propre chef, Stan Lee Media, avait fait une plainte à Marvel pour récupérer les droits des personnages que Stan Lee avait créés, et bien ça y est, ils ont été déboutés de leur
plainte. Ils ont été jartés, et plus que ça, parce que je crois qu'ils demandaient quelque chose comme 1 ou 2 milliards de dollars, enfin toutes les recettes des films, quoi.
C'était totalement prévisible, hein, de toute façon.
C'était légèrement con, hein, surtout.
Mais on avait dit qu'on vous donnerait des infos dès qu'on en aurait, on en a. Ils se sont pris une branlée, c'est bien fait pour leur gueule, et j'espère qu'ils auront été contraints à payer les frais d'avocat de Marvel, ça leur fera les pieds.
Voilà.
Parce que là, c'était clairement une décision juste pour avoir du fric.
Tout à fait.
Enfin, on apprend chez Valiant que la série Quantum et Woody va avoir un nouveau dessinateur. Ce sera Ming Doyle.
Ouais, qui dessine la série Mara chez Image. Voilà, il arrive pour le numéro 5. Et l'arrivée de la chèvre, a priori, qui arriverait fin du numéro 4.
Tu avais lu, toi, cette série Mara, je crois que tu avais bien aimé, hein, les dessins.
C'est plutôt sympa. Après, c'est particulier. Donc, il me tarde de voir ce que ça va donner dans Quantum and Woody. Mais c'était plutôt joli.
Eh bien, voilà, ça nous fait une typique transition vers notre partie Comics.com, puisque c'est la fin des brèves. Et le premier sujet, parlons de Valiant, transition.
Ah.
Appelez-moi le PPDA du comics.
Bien joué.
C'est un mail de Mackay qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, je tiens d'abord à vous témoigner ma reconnaissance pour le message de bienvenue à l'antenne concernant la naissance de notre merveille Elina. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de ça quelques mois, on avait fait
le petit
coucou. « J'en profite également pour vous renouveler l'éternelle admiration que j'ai par rapport au travail sur vos émissions et le site. »
Ça fait plaisir. Éternelle admiration.
Ma question concerne Valiant. Comme beaucoup de monde actuellement avec l'apparition de leur titre par Panini, peut-on tout acheter? Je souhaiterais prendre Archer & Armstrong, Harbinger. Est-ce que XO Manowar vaut également l'achat? Merci d'avance pour vos conseils toujours avisés. Continuez à nous épater chaque semaine, je m'en lasserai jamais et je ne pense pas être le seul dans ce cas. Bah déjà merci.
Ouais, merci. Ça fait vraiment plaisir, hein, ton mail.
Quant à ta réponse, on ne sait pas. Mail suivant. Je plaisante. C'est des conseils avisés, les mecs. Ouais, on ne sait pas. Oui, XO Manowar vaut parce que c'est le premier titre Valiant déjà à être lancé. Il va avoir une assez grosse importance concernant le futur de la ligne.
Il est clé, hein. Il est un peu clé puisqu'il y a eu pas mal d'événements en rapport avec XO Manowar et la prochaine série Unity sera avec aussi XO Manowar. C'est quand même un perso clé dans l'univers Valiant.
Maintenant, pour lire Archer, Armstrong ou Harbinger, tu n'as pas besoin de lire XO Manowar. De même que pour lire Harbinger, tu n'as pas besoin d'Archer et Armstrong. Enfin voilà, chaque série est vraiment indépendante les unes des autres. Sauf que Valiant a vraiment essayé de mettre l'accent sur un univers partagé. Et il n'y a pas énormément de séries encore, et ça peut valoir le coup de toutes les prendre.
Au moins tester le premier TP, quoi.
Au moins tester, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas EXO Manowar, c'est assez particulier. De par le setup de départ, je ne vais pas trop en dévoiler, on en parlera dans le Comic City notamment, qu'on enregistrera la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas trop en dévoiler, mais ça peut ne pas plaire au départ, mais ça vaut. Enfin, moi, je trouve que ça vaut le coup, quoi. C'est un. Pour schématiser, c'est une sorte d'Iron Man, mais beaucoup plus violent. C'est vraiment pour schématiser, quoi. En revanche, moi, Archer et Armstrong ou Harbinger, voilà, sont deux autres séries qui ont des tons relativement différents. Et c'est ça qui est aussi la force de Valiant, c'est de proposer des titres avec des tons vraiment différents les uns des autres. Et donc, il y en a un peu pour tous les goûts.
Ouais.
Tu les as commencés, les titres Valiant, Sam, ou tu attends l'arrivée en français ?
Du tout, mais j'ai pas les moyens de les commencer en VF. Je suis déjà trop de trucs en comics manga, donc j'ai plus les moyens de suivre là.
Eh bien, tu vas passer à côté de quelque chose de très bon, mais en même temps, ça reste du marché librairie, donc ce sera facile à trouver le jour où tu voudras rattraper.
Ça m'étonnerait.
Eh bien, tu as tort. Voilà, en tout cas, merci à toi, Maquet. J'espère que ça répond à ta question. Et de toute façon, pour en savoir plus sur Valiant, je vous renvoie vers le Comic City qui sortira vers le 20 à peu près. Je peux même donner la date exacte. Ça sortira le jeudi 19. Si tout va bien, s'il n'y a pas du tout de problème d'ici là, mais normalement le jeudi 19, où on fera une partie bibliothèque sur Valiant. Et justement, on vous expliquera un petit peu ce qu'est ce nouvel univers, et etc., etc. Continuons avec un mail de Philippe. Sam.
Oui, très court. Hello, je suis en train de re-regarder Breaking Bad et un détail m'a fait tilter. Dans la saison 1, épisode 7, à 5 minutes 40, quand Walter entre dans la caravane avec une tête fatiguée, Jess lui lance « Vous avez l'air de Lex Luthor ».
Et oui, voilà. C'était peut-être prophétique.
Bon, petit clin d'œil, ouais, c'est vrai.
Bon, personnellement, je n'ai jamais vu cette scène puisque je me suis arrêté à l'épisode 3. Pas parce que je n'aime pas.
Toujours pas commencé.
Oh là c'est juste là, que les je gars, n'ai pas là, eu le temps. Vous, soi-disant, vous aimez les séries télé et vous regardez pas la meilleure série télé du moment, quoi.
Permets-moi d'en douter, étant donné que je ne l'ai pas vu.
Et qu'on connaît tes goûts.
Non, Breaking Bad, c'est super bon. Et c'est vrai qu'il pourrait faire un Lex Luthor, je pense, intéressant. Mais ça n'a toujours pas été confirmé, hein, pour l'instant, son implication dans Superman, Batman.
De toute façon, comme chacun sait, la meilleure série du monde, c'est Smallville. Vous avez vu comment j'ai essayé d'être crédible et que ça marche pas?
Merci Steve. Là,
tu voulais faire un spécial série, Sam? T'es sûr? Avec mes goûts? écoute, en tout cas, moi, c'est une série vraiment que j'ai prévu de voir, Breaking Bad. Honnêtement, quand je l'avais commencé, c'était juste avant le retour des séries de septembre, pas de cette année, de l'année d'avant. Et j'avais un planning de série tellement chargé, c'est-à-dire environ 25 séries à suivre dans l'année, que je n'ai pas eu le temps de continuer et je n'ai jamais repris parce qu'il faut que je recommence tout à zéro. Voilà, tout simplement. Voilà mon excuse. En as-tu une, Sam?
Le manque de temps et le manque d'argent. Comme d'habitude. Faut quand même payer les saisons, hein.
Tu sais, il y a Tonton Stream.
Tonton
Stream. Il est vachement bien.
Je sais, mais ça me fait chier de la regarder sur l'ordi.
Eh bien, s'il n'y a pas tonton stream, il y a tonton torrent, tu vois. Il y a le cours d'eau et il y a le torrent qui te permet d'envoyer sur ta box.
Oh là là, Dieu.
Bon. C'est très pratique. Fais comme moi, prends deux écrans, comme ça tu peux faire deux trucs en même temps.
C'est vrai.
Bruno, tu as le troisième mail.
Oui, on va terminer avec un mail de Grum. Donc, bonjour à toute l'équipe, je vais faire court, ça vous changera des mails trop longs à lire. J'envisage de prendre une place pour la PCE 2013. Mais je n'ai jamais mis les pieds dans ce genre de manifestation. Pouvez-vous donc m'expliquer les différentes manières de repartir avec un petit crayonné d'un artiste présent sur le salon? Par exemple, j'ai découvert récemment des blank covers qui peuvent servir de support pour un petit dessin de l'artiste. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter sur place? Faut-il acheter le matériel aussi sur place? Pour être plus clair, comment se déroule une séance de dédicace? Voilà. Donc ça dépend en fait. La PCE en 2012, j'y suis allé donc avec Nightrunner, et il y avait eu différentes façons d'avoir des dédicaces. Certains auteurs, en fait, c'était des tirages au sort qui avaient lieu le matin. Il fallait arriver à une heure précise, déposer son nom dans une liste. Fallait être présent au moment où ils faisaient le tirage au sort. Et si on était choisi, en fait, on avait un numéro de passage pour venir avoir sa dédicace. Il y avait aussi un stand pour Urban qui avait pas mal d'invités, d'invités comics, où là en fait c'était il fallait faire une file d'attente et premier arrivé, premier servi. Donc il y a vraiment différentes façons de d'avoir une dédicace.
C'est vraiment différent à chaque convention en fait. Hein.
Ouais.
Par exemple sur le stand de Panini à Angoulême, c'est pareil, c'est un tirage au sort. Au LCF, ça se passe pas comme ça.
Ouais,
c'est plus
faut faire la file d'attente et premier
arrivé.
Faut
faire la file d'attente et faut prendre aussi des tickets dédicaces avec les prints.
Faut savoir aussi que souvent les artistes invités dans ces manifestations font un certain nombre de free sketch. Il y a aussi ce qu'on appelle les commissions, où en fait c'est des dessins payants qui du coup souvent sont faits en prenant un petit peu plus de temps. Et c'est sur d'autres créneaux. Je sais pas si sur la PCE, comme c'est que sur deux jours, il y aura des créneaux pour des commissions, mais c'est aussi une autre façon d'avoir des dédicaces. À savoir que c'est quand même aussi préférable de venir avec son matériel, avoir des feuilles de dessin, des blank covers par exemple, parce que les artistes n'ont pas toujours avec eux du papier pour pouvoir faire les dédicaces, quoi. Donc,
c'est clair.
C'est la moindre des choses de venir avec son matos, quoi. Après, ils ont
en ce
les
qui
crayons.
Concerne, oui, voilà, les crayons, c'est eux. Hein.
Mais le papier, c'est quand même beaucoup mieux. À moins, sinon, vous allez repartir avec une petite feuille volante de pas très bonne qualité. Donc...
Et si vous avez un papier de merde, il arrive aussi, parce que ça peut arriver, hein, des petits papiers que l'artiste n'aime pas trop, il peut qu'il sorte aussi sa propre feuille parce qu'il n'aime pas dessiner sur ce genre de papier.
Et venez avec un carton ou quelque chose pour pouvoir le protéger après, pour pouvoir le transporter et pas qu'il soit tout de suite corné et compagnie. Donc.
Ouais. Et pour les blank covers ou ce genre de trucs, tu peux les acheter bien avant dans ton comic shop ou sur le net, etc. Tu n'as pas obligation de l'acheter sur place normalement.
Ouais.
Enfin, ça dépend. Après, c'est pareil, ça peut dépendre des conventions. Certaines conventions, notamment aux États-Unis, imposent d'acheter quelque chose sur place.
Ouais, il y a pas mal d'artistes aussi qui viennent et qui sont pas invités par le festival, qui eux ont payé leur place pour pouvoir être là. Souvent, ça s'accompagne de l'achat, par exemple, du sketchbook. Et du coup, à l'intérieur, il y a un espace réservé pour le dessin. Donc, tu achètes un sketchbook qui a une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Et du coup, il te fait un petit portrait à l'intérieur. Voilà.
J'espère que ça répond à ta question. Le petit PS, Bruno.
Ah oui, bah alors, en fait, c'est amusant parce qu'il est passé à la boutique donc à Bordeaux. Donc, il m'avait posé une question et je m'étais foiré. Donc voilà. Il me le rappelle bien. Bravo.
Rappelle-le à tout le monde, que tout le monde sache.
Je me rate jamais, mais bon, là. Et non, c'était très sympa parce que du coup, je lui ai conseillé aussi de prendre autre chose et il l'a pris. Et a priori, il a dû être content. Donc voilà. L'annual de Hawkeye qui était très sympa. Voilà.
D'accord. On va terminer très vite avec trois petits tweets qui nous ont été remis par Loïc, puisque c'est Loïc qui s'occupe de notre compte Twitter. Spades CS qui nous dit « Bon ben, suicide risque, ça défonce, merci du conseil Comic City. »
Bah oui, je confirme, c'est toujours aussi.
Je pense qu'il voulait parler de Suicide Squad, je pense.
Non, Suicide Risk.
Ah, hein.
Suicide Risk, une
c'est
série
très,
Boom.
Très sympa.
Hein.
Très bien, comme on corrige.
Mike Carré chez Boom, c'est très bon.
Sangokan qui nous dit vous me direz au fait si vous voulez qu'on vous kickstarte des billets d'avion pour un Comic City en live deluxe qui déboîte grave. Bah écoute, pourquoi pas, les billets d'avion, je ne sais pas pour où encore, mais on trouve la même destination.
Tahiti, un truc comme ça, pourrait être cool, quoi.
Ah, quelque chose qui fasse plaisir à tout le monde, et moi les climats chauds, hein. Ou alors avec un petit climatiseur. Hein.
Un podcast sur la plage dans Méo.
Moi je proposerais bien un truc genre au Canada par moins 40.
Oh!
Avec imitation de l'accent en direct, s'il vous plaît.
Il y a un caribou en fond pour bien avoir tous les clichés.
Tabarnak,
accent que j'adore, hein, que je rigole, mais j'adore leur accent. Vraiment, je suis un grand fan. Enfin, Sentry de Madman qui nous dit « Suis en train de re-regarder le Comic City 150, et ben je me marre. » Et eh bien, on ne sait pas exactement quand, mais ça va revenir très prochainement, peut-être sûrement même pour un Weekly News. Et si tout va bien, si la technique nous le permet, le temps aussi nous le permet, ce sera peut-être avant la fin du mois de septembre.
Ta-ta-ta.
On essaiera de vous prévenir. Mais ce sera un petit peu à l'arrache. On vous
préviendra
un peu à la dernière minute, genre peut-être une demi-heure, une heure avant. Et bah pour ceux qui seront là dans le coin pourront regarder l'émission. Bien sûr, l'émission sera rediffusée et disponible aussi en audio. Quand même pour tous ceux qui ne souhaitent pas rester devant YouTube pendant une heure d'émission.
Et voir nos tronches.
Eh bien, c'est tout pour cette émission.
Et
avec
oui.
Une actu vraiment chargée, ça fait plaisir quand même.
Ouais.
Plein de sujets. plein de sujets intéressants. Et encore, on aurait pu tellement en dire plus.
Oui, bah, le débat Star Trek reboot, il y en a pour toute une émission rien que pour ça. Hein.
Eh bien, on est reparti. Alors, puisque c'est comme ça...
Star non, Trek City
écoute, ne grille pas mon nouveau projet. Non, je plaisante.
Oh, merde.
Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quoique, c'est une bonne idée. Je la mets sous le coude. Le jour où j'aurai des journées de 28 heures. On vous remercie en tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour votre prochaine dose d'actu et comics pardon et dérivés, si j'oublie des mots ça marche moins bien. Bien sûr samedi vous aurez le weekly news, non merde, le comics weekly
avec le review.
Ça se voit que je me lève à 4h30 le matin en ce moment.
Est-ce
c'est
que
dur,
le Villain Mons ça va s'améliorer ou pas, vous le saurez.
Non.
Est-ce que Infinity continuera d'être sympa?
Oui.
Est-ce que Battle of the Atom va finir de s'enfoncer?
Non, un ça peu c'est plus très encore. Bien.
C'est pas si mal la Battle of the Atom. Mm.
Toutes les réponses samedi matin dans le Comics Weekly. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur le site, sur Facebook, sur Twitter et retrouver toutes les anciennes émissions sur iTunes, les bons agrégateurs de podcasts et bien évidemment sur le site puisqu'ils y sont encore tous disponibles. D'ici là, faites comme tout le monde. C'est-à-dire Grum, Philippe ou encore Maquet, envoyez-nous des messages à podcast@comiccity.fr ou n'hésitez pas à nous laisser un petit tweet et puis on vous les lira dans l'émission et on y répondra s'il ouais. y a question.
Merci à vous.
Merci.
À la semaine prochaine.
Ciao, ciao. Just for the tea.